Yeah, 10 000 heures présentes. Sacré. Yeah, yeah, yeah. Et bonsoir à tous. Alors, on est sur le troisième épisode du podcast. Et ce soir, j'ai en ma compagnie l'homme que l'on nomme Walter, a.k.a. Waltox, a.k.a. un mec comme Walt, a.k.a.
a.k.a. Waltman.
Exactement. Voilà. Et merci à toi d'être venu, mon zin.
Merci les frérots.
Ça fait très plaisir, ouais. Plaisir partagé. C'est ouf. Donc alors, on va parler un petit peu ensemble, là. Donc j'ai plusieurs questions, donc on va commencer tranquillement. Donc je voulais d'abord savoir, parce que je sais que t'as entendu du rap très, très tôt, t'étais au primaire et tout, et je voulais savoir c'était par quel biais, si c'était genre, même quel biais, quel support, c'était la télé ou c'était un de tes grands frères ou quoi qui t'avait filé des trucs.
Alors, c'est un mélange de plein de trucs, je me rappelle pas exactement le premier souvenir, mais c'est un mélange de... entre le CD et la cassette, avant de voir des clips ou la télé ou quoi. Mais je pense que c'est mes parents, et que c'est par leur collection de CD, leur enregistrement sur cassette, tu vois.
Ok.
Je pense que c'est ça, la découverte du rap, elle s'est faite à travers ça, en fait, à travers mes parents.
Donc tes parents écoutaient du rap?
Et mes parents, ouais, du coup, ouais, ils écoutaient de tout. Donc là, pour recontextualiser l'époque, là, on parle de début 90, moi je suis de 89. Mmh. Et du coup, mes parents, en fait, ils ont écouté énormément de musique, ils ont une culture musicale très très variée, tu vois. Et en fait, le rap, c'est venu naturellement à leurs oreilles, ça faisait partie d'un cycle d'influence, etc. Et donc... franchement, je pense que les premiers trucs que j'ai dû entendre en rap, ça se bagarre entre MC Solar, NTM, Assassin IAM, mmh. et en américain, même Alliance Ethnique, le premier album d'Alliance Ethnique aussi. Et en américain, je sais que mes parents, ils écoutaient Public Enemy, Beastie Boys.
Ah ouais.
Donc ça, en tout cas, il y avait des albums de ces artistes chez WAM. Et après, je sais qu'il y a des groupes comme les Roots, que j'ai très tôt découvert.
Tout ça, c'était encore au primaire?
Et là, du coup, je te dis, tout ça, moi, je dois prendre conscience de tout ça entre 93 et 95.
Très bien.
Donc, tu vois, il y a l'homicide volontaire d'Assassin qui sort en 95, je crois, ou 94. T'as Ombre et Lumière d'IAM, dans cette même époque. T'as Paris sous les bombes, NTM. Mmh. T'as les deux premiers albums de MC Solar. Mmh. Donc ça, c'est les premiers albums de rap français que j'ai écoutés, tu vois, vraiment, que j'écoutais très régulièrement. Et après, il y a la radio, en fait, en vrai. Et t'as Skyrock qui se met à passer du rap. Même, je crois que Fun Radio, ils ont passé aussi un petit peu. Donc, t'as des morceaux comme... Enfin, t'as Fab, quoi, tu vois.
Il y a l'un de mes rappeurs préférés.
Tu vois, voilà, tu vois, Fab, ça fait partie de mon passé.
Exactement.
C'est un classique de ouf. Tu vois, à l'époque, quand t'es enfant, t'as un truc un peu... Bon, peut-être que les gens, ils ont encore cette habitude aujourd'hui, mais... T'es là un peu en train de te dire, ça, c'est mon morceau préféré. Ça, c'est mon morceau préféré, tout ça, tu vois. Et t'as 5 piges et tu découvres à peine la musique, t'as déjà un morceau préféré, tu vois. Ça fait partie de mon passé, c'était mon morceau préféré, tu vois. Il passe à la radio, je dis, ah ouais.
Je me rappelle de l'époque où je révisais mes cours au secours. Des lascars se tapent dans la cour, je sais. Chacun s'en sort comme il peut.
C'est fort, tout ça, c'est incroyable. Et bon, c'était... Il y avait plein de trucs autour, mais en tout cas, c'était marquant.
Ok, bah du coup en vrai c'est arrivé super tôt et c'est super rare que ça soit tes parents qui transmettent le bail. Moi c'est la même chose pour moi, c'est mon père. Ouais. Tu vois, mais généralement c'est souvent des grands frères ou un grand cousin ou quoi, tu vois, qui ramène ça.
Ouais ouais, mes parents, ma mère était jeune et en fait mon grand frère, moi j'ai 3 ans d'écart avec lui, donc aussi bien lui que moi, tu vois, on s'est pris la vague de ce que nos parents écoutaient. Vraiment, ils écoutaient de tout, tu vois. Chez nous, on a écouté de la musique classique, de la chanson française, du rock, du punk, du jazz, enfin tout, tu vois. Il n'y a pas de frontières, en fait. Tu vois, j'ai toujours baigné dans toutes les musiques, en fait.
Ouais, t'as aimé la musique dans sa globalité.
Ouais, voilà, tu vois.
Et le rap, c'était le truc que tu préférais.
Bah, le rap, c'est surtout le truc de ma génération. En tout cas, j'ai l'impression, c'est comme ça que je me le suis pris. C'est les trucs qui étaient dans l'histoire de la musique et c'était en développement, quoi. C'était, il y avait pas non plus 10 000 trucs qui étaient faits, en fait, en vrai, notamment en France. Aux États-Unis, il y avait déjà un bagage, il y avait déjà un truc quand même qui s'était construit, mais en France, il y avait quand même.
Ouais, c'est clair.
Un truc vraiment en mouvement, et ça, on le sentait. Enfin, moi, je le sentais qu'il y avait un truc lié à ma génération. Donc, c'était le moyen d'expression dans lequel je me suis le plus retrouvé assez rapidement, parce que c'était vraiment dans l'époque, quoi.
Ok. Et est-ce que tu peux me resituer où t'as grandi, s'il te plaît?
Et moi, j'ai grandi dans 77, donc à Champs-sur-Marne.
Ok. Tu peux expliquer aux gens où ça se situe un peu, s'il te plaît?
Ouais, bah, c'est l'Est parisien, tu vois, RER A, sur la ligne qui va à Chessy, tu vois. Donc moi, j'ai grandi à Champs, mais tu vois, c'est dans un regroupement de villes, tu vois, autour, il y a Noisiel, donc il y a Logne, Torcy. Voilà, donc ça, la ville nouvelle, c'est Marne-la-Vallée, ça regroupe quatre secteurs, en fait. Champs-sur-Marne, c'est dans le secteur 2, c'est là, je te dis, où il y a Torcy, Noisiel, Logne. Mais voilà, moi, le secteur, c'est vraiment Champs, Noisiel, Torcy.
Ok.
Voilà, ça, c'est là le secteur où j'ai grandi et j'y suis allé, enfin, j'y suis resté assez longtemps, quoi.
Ok. Du coup, t'es au primaire et tu commences à être piqué par cette musique et là, tu commences à devenir un digger. Ou c'est venu après?
C'est venu un peu après. En vrai, je commençais à écouter beaucoup de rap, mais par la radio, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives par Skyrock. Et en fait, Génération, moi, je rate complètement la période, la grande période de Génération, en fait. Je calcule pas cette radio. J'en ai pas
Ouais, t'en as pas connaissance.
J'en ai même pas connaissance, tu vois, je fais même pas gaffe. Il y a des magazines comme RAP, tu vois. Là, on va dire, ouais, j'écoute un peu tout ça, tout ce qui se passe, tout ce que mon grand frère écoute. Là, du coup, on va dire que de mes 5 à mes 10 ans, je suis assez connecté à ce que mon grand frère écoute. Donc, tu vois, je découvre plus de groupes américains, Cypress Hill, des trucs comme ça, tu vois, les Fugees, tu vois, aussi.
Ouais, c'est la grande époque des Fugees.
Hein. Ouais, tu vois. Et après, voilà, en rap français, il y a tout ce qui est le Secteur A, toute la période du Secteur A.
Très grande époque.
On s'est mangé ça à fond avec mon grand frère, tu vois. Après, il y a tout le côté Marseille, Funky Family aussi. Donc vraiment, ouais, entre 95 et 2000, on se mange quand même pas mal ce qui se passe à la radio, ce qu'il y a dans les magazines, quoi.
Et les magazines, c'est, t'as dit RAP, mais après, t'as acheté quoi d'autre comme magazine? Parce que je sais que t'en as acheté.
À l'époque, là, j'achetais pas de magazine, c'est plus tard que je... Et pareil, j'ai découvert ça très tard, j'ai découvert Radical très tard.
Ok, t'étais à quelle époque?
Et c'est au collège, là, j'aurais été en quatrième.
Ça va, c'est pas tard.
Ouais, mais Radical était déjà sur le déclin. C'était déjà fini, en fait. Moi, quand j'ai commencé à acheter et à lire Radical, en fait, ils avaient déjà été rachetés. Ils avaient été rachetés par je sais plus qui. Et en fait, ils avaient changé de...
Une éditoriale, tout ça.
Ouais, exactement. Ils avaient tout changé. Je crois que c'est Cachin qui avait repris, tu vois.
C'est exactement ça. C'était le comment on dit ça, rédacteur en chef, là.
C'est ça. Mais avant, c'était pas lui, tu vois. C'était toute une équipe, etc. qui avait... Franchement, tu compares, c'est vrai qu'en termes de contenu, c'est assez différent. Mais quand même, Radical est resté après quand même un des magazines rap les plus consistants et les plus, tu vois, les plus solides. Même malgré le changement de ligne éditoriale, ça restait quand même assez...
C'était assez clean.
Ouais, ouais. Après, t'avais quoi? T'avais RER. C'était plus cheap sur la présentation, mais c'était pas mal, tu vois, aussi. Il y avait Groove. Ouais,
exactement.
Groove, ça, j'ai découvert ça assez tôt avec les CD.
Exactement. Ouais. Les CD, il y avait des grosses pépites. Ouais, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais en Guadeloupe, genre en 2000. En 2001, parce que j'ai déménagé là-bas. Et en vrai, de 2001 à ce que je rebouge ici, 2007, je lisais, et ma mère en fait me les achetait dans les kiosques. Et il faut savoir que, bah, tu vois, j'habite en Guadeloupe. Et en fait, le numéro d'avril, moi je le recevais en juin, juillet. Quoi,
ah ouais, il y a un vrai décalage.
Ouais, il y a un vrai décalage. Ce qui me permettait de me bousiller, de vraiment lire le truc à fond et d'écouter tous les sons, tout ça, et faire mes recherches sur les titres et les artistes que je connais, que j'aimais bien, tu vois.
Bah c'était franchement, ils ont grave géré Groove, en tout cas par rapport à plein de magazines à l'époque, quoi. Le fait d'avoir un CD, d'avoir des extraits, de se les manger, etc. T'avais à la fois du Ricain, du Français, etc. C'était quand même très chaud. Après, t'avais des magazines comme L'Affiche aussi, mais ça, pareil, j'ai découvert plus tard, quand c'était plus édité.
C'est encore un truc dans lequel Olivier Cachin il a travaillé, je crois.
Ouais, carrément. Et je crois que c'était pas que sur le rap, c'était un peu plus global, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de numéros, en tout cas peut-être vers la fin de L'Affiche, il y avait quand même beaucoup de numéros quand même assez consacrés au rap. Quoi.
T'as c'est... connu aussi Tracklist ?
Tracklist aussi un peu, ouais.
Il y avait des CD dedans.
Voilà, ça, mais ça arrivait après, ça. C'est...
Ouais.
Mais Tracklist, ouais, carrément.
Ouais, il y avait cette merde.
Ouais, Tracklist, ils étaient chauds aussi avec les CD, quoi. Et en fait, c'est Radical qui s'est mis, après le changement de ligne éditoriale, ils se sont mis à, aussi, pareil, à fournir des sampleurs, quoi, des skeux des actualités qui sortaient, quoi.
Du coup, toi, tu te les procurais tous les mois ?
Ouais. Ouais, carrément. Ouais, ouais. 4 balles 50, je crois, ou 5 balles à l'époque.
À l'époque, c'était ça.
Ouais, c'est peut-être monté à 5,50, un truc comme ça.
Ouais, moi, je sais que je les avais à 7 ou 8 euros en Guadeloupe avec leur taxe, tu vois.
Bah ouais.
Leur taxe colonie. Mais je les avais quand même.
Bah ouais, putain, c'est dur.
Ah ouais.
Mais voilà, c'était un petit investissement qui faisait plaisir, quoi. C'était, tu vois, il y avait plein de trucs, quoi.
Et ton argent de poche, il passait du coup dans les magazines et dans les CD aussi ?
Ouais, ouais, essentiellement, ouais.
Et dans du coup, quand t'avais tes CD ? Tu lisais le livret et tout ça, tu te bousillais, non ?
Ouais, je me renseignais un peu sur les dédicaces, notamment. J'aimais bien regarder quand il y avait des remerciements, tout ça. J'aimais bien regarder, en gros, les artistes autour de qui ils gravitaient. Un peu, tu vois, vraiment, quels étaient un peu les collectifs qui étaient proches entre eux, comment ça se passait, quoi. Donc, je trouvais que les dédicaces étaient assez intéressants pour ça, pour capter un peu une scène, de voir... Tiens, il n'a pas dédicacé tel groupe, tiens. Peut-être qu'il en embrouille ou quoi, tu vois. Peut-être qu'il ne se calcule pas. C'est des suppositions, tu vois. Mais, mais j'aimais bien. Et après, tu avais tous les crédits, tout ça. Mais ouais, même l'artwork, tu vois, le livret, les pages, etc. C'était un truc chaud, quoi.
Ouais, c'était fort. Et tu te rappelles du premier concert auquel tu as assisté, de rap ou pas ?
Ah putain, bonne question. Très chaud comme question. Parce que là, wow. Premier concert de rap. C'est difficile. Hein.
Soit le concert où on t'a amené, ton grand frère t'a amené, ou soit le concert où t'es allé tout seul, où t'as mis ton billet, tu t'es dit là, faut que j'y aille. Ou l'un des premiers, si le premier c'est dur, parce que mon génération 89.
De ouf. De ouf, parce que j'ai pas le souvenir d'être allé avec mes parents à des concerts de rap, ni avec mon grand frère. Oh, j'avoue, c'est technique. En vrai, au lycée, t'as vu, j'étais allé voir La Rumeur à l'Élysée Montmartre. Pour la promo, enfin la tournée de Regain de Tension du deuxième album. Et bon, ça, on va dire, c'est sûrement pas le premier concert de rap que j'ai vu,
c'est un des premiers.
Mais c'est un des premiers concerts marquants, dans la mesure où la première partie c'est Kazé.
Ok, oui.
Tu vois,
je connais ton amour pour Kazé.
Voilà, tu vois,
on a un amour commun pour cette
rappeuse. Exactement. Bah là, moi j'avais déjà entendu des couplets d'elle et genre, ouais. J'étais assez surpris.
Moi j'ai toujours préféré Kazé à La Rumeur, je tiens à le dire. Alors, c'est là, mon avis.
C'est deux choses très différentes. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Deux choses très 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 différentes. Mais
non,
en tout cas, en termes de live, ouais. Kazé, elle est arrivée, elle n'avait pas sorti Ennemi de l'Ordre.
Ah, oui.
C'était en 2005, un truc comme ça. Et en fait, elle est arrivée, elle a tout fumé. C'était incroyable.
Comme à son habitude.
Voilà. Pour moi, ça, c'est un des concerts les plus marquants que j'ai pu faire, dans le rap français en tout cas. Où là, Kazé, quand elle arrive avec le maxi Ennemi de l'Ordre, qui sort un an après en fait, elle est à un niveau d'écriture qui est au-dessus d'énormément de rappeurs et de gens dans le rap français, de loin, de très très loin, dans ce qu'elle raconte, etc. À une époque où le rap il commence à partir dans un truc très bling bling, très américain, etc. Kazé, elle arrive avec des thématiques sociales, très sombres, etc. Mais en rappant. Elle récite pas des discours, etc. Elle rappe, elle écrit, et c'est incroyable, tu vois.
Toi, c'est ce qui te plaît dans le rap, la richesse d'écriture ?
Ouais, moi, j'aime bien la souplesse, tu vois. J'aime bien... tu peux... Voilà. J'aime bien les images, j'aime bien la densité d'écriture aussi, tu vois. Mais ouais, la base, j'aime bien quand ça raconte des trucs. Je m'en tape que les gens soient engagés ou pas, tu vois. C'est juste... Kazé, elle avait des allitérations, des assonances, des trucs, elle jouait de ouf avec les mots et elle racontait quelque chose. C'était ouf. Tu vois, moi, en fait, j'ai longtemps écouté Assassin. Et Assassin, en fait, ça a très mal vieilli en termes de contenu, en termes d'écriture. Enfin, tu vois, l'histoire d'Assassin, elle est ultra importante dans toutes les époques qu'ils ont traversées entre fin des années 80 et début 2000 en termes de production. En termes de producteurs, les gens avec qui ils ont travaillé, tu vois.
DJ Clyde, tout ça, c'était chaud.
Clyde, tu vois, le dernier album d'Assassin, il y a DJ Medi qui produit, Docteur L sur l'homicide volontaire, etc. C'est trois styles, les trois albums, c'est trois styles assez différents, mais qui sont bien ancrés dans leur époque. Par contre, en termes de rap, ça pêche. tu vois. C'est des choses qui ont pas très bien vieilli. Et Kazé, elle, en fait, voilà, elle fait partie d'une scène en fait où ça racontait des trucs et ça rappait vraiment, quoi. Ouais, parce qu'elle était à la page, elle était à la page des rappeurs de son époque, tu vois. Et ça, c'était ultra important, quoi.
Ok. Et du coup, ça te fait comment la transition entre t'es auditeur et après tu passes à rappeur? Comment tu te dis, ouais, je vais commencer à écrire mon premier texte et tout?
En vrai, je crois que t'es vu que j'écoutais du rap quand même très tôt. Mmh. J'ai déjà eu pour me taper des barres, des impulsions d'écrire des rimes ou des faux refrains, tu vois. Des trucs un peu New Jack, un peu vraiment hip-hop, tu vois, à l'ancienne. Hey, tu vois, je m'imaginais des mêmes, à l'époque du rap français, des refrains Secteur A, tout ça, Asia, tu vois, les meufs qui chantent, tout ça. Je m'imaginais des refrains avec Hugo qui chante derrière, tout ça.
Tu voulais un refrain avec Karine, tout
ouais,
ça.
Ouais, de ouf, voilà. Tu vois. Je m'imaginais des refrains comme ça, tu vois. Mais en vrai, du coup, tu vois, primaire, j'ai dû gratter des petits trucs pour gaulerie, tu vois, mais okay. rien de sérieux.
Ouais, c'est bien précoce, hein.
Ouais, mais rien. Tu vois, tu vois, j'ai dû écrire un morceau ou un couplet une fois.
C'est déjà beaucoup, gros.
Mais je me suis pas dit je vais écrire, tu vois. Et okay. En fait, j'ai lâché l'affaire avec ça. Et autour de 5e, 4e, en fait, en gros, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'écoute du rap, etc. J'aimerais bien, sans forcément faire du rap, faire une discipline qui est dans la culture hip-hop, en fait. M'attacher à une des disciplines et commencer à m'appliquer sur un truc. Et le premier truc que je veux faire, en fait, c'est je veux taguer, tu vois. Je veux taguer, graffer. Parce que j'aimais bien dessiner, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas doué. Vraiment, le dessin, ça n'a jamais été un truc que je maîtrisais, mais j'aimais bien tout le délire créatif autour du dessin. Et donc, je me suis dit, tiens, le rap, j'ai pas forcément grand chose à raconter. Je vais dessiner, quoi. Et donc, je commence à un peu m'expérimenter, à jeter un coup d'œil là-dessus. Et en fait, je vois que c'est pas du tout pour moi, que c'est un monde ultra cruel, ultra violent, en fait, et ultra dangereux, tu vois. Et aussi bien du côté des activistes que de la justice, tu vois. T'es dans un monde assez sauvage, quoi. Mmh. En tout cas, moi, je capte que, tu vois, c'est pas pour moi, tu vois.
Vandale.
Ouais, le monde du vandalisme, c'est trop de choses à gérer. Et moi, ça se passait très bien chez moi à la maison. J'avais très bon rapport avec mes parents. Tu vois, donc j'avais pas de raison de foutre la merde dans le foyer, d'amener des, tu vois, j'étais très bon à l'école, j'étais un élève parfait, j'étais un enfant très sage,
ça a bien changé.
ça va encore, on se maintient, okay. Mais en vrai, il y avait pas de raison que je parte en vrille comme ça, quoi. Enfin, tu vois, j'avais pas la folie de ça, ouais. Et en fait, je commençais déjà un peu à gratouiller, et à un moment, je me suis dit, vas-y, fwap zap le tag, on va se concentrer sur l'écriture et les instrus.
Ok.
Les instrus aussi en parallèle, quoi.
Et tu te rappelles quelle phase B tu utilisais tout ça au début ou t'as pas de souvenir de ça?
Alors, si, en gros, quand j'ai commencé à écrire, en fait, des fois, bon, je pouvais avoir la chance des fois d'avoir des CD où il y avait les phases B. Mmh. Je m'en rappelle notamment de l'album. De la caution Asphalte Hurlante, ils avaient fait une réédition avec des morceaux en plus et un deuxième CD avec toutes les instrus. C'était les prods de la caution, bon, c'était un délire, quoi.
Assez particulier.
Voilà, mais original, tu vois, dans une époque, tu vois, une scène assez intéressante, quoi.
Mais ça permet de faire ses dents.
Ouais, tu vois.
C'est solide.
Ouais, non, mais c'était une influence assez différente de pas mal de choses. Donc, en fait, moi, je me retrouvais un peu dans les trucs électro. T'as vu que j'ai écouté, comme je vous disais, j'ai écouté plein de trucs. Donc, l'électro, c'est un truc, moi, qui me parlait aussi. Mmh. Donc, les instrus chelous avec plein d'effets, etc. En fait, moi, ça me choquait pas, j'aimais bien. Après, effectivement, je faisais écouter les instrus à des potes à moi, ils me disaient. Sont chelous tes prods, c'est bizarre. Donc du coup, en parallèle, sur Internet, autour de 2005, entre 2000 et 2005, t'as toute la vague nécro Jedi Matrix, où en fait sur Internet, t'as beaucoup de prods de phase B qui circulent, des prods boom bap samples, assez sombres, tu vois, samples de violon, samples de piano, etc. Et ça, c'est des instrus qui ont été ultra, ultra marquantes. Et en plus, t'as tout ce qui est DJ Premier, Gangstar, les prods de Nas, voilà, et tout ça. En vrai, ça fait partie des phases B que j'ai bien rongées, quoi. Que j'ai beaucoup entendu.
Ok. Moi, je veux savoir un truc, là. Je veux savoir quand t'as connecté avec les Jedi du Valmob, s'il te plaît?
Alors ça, en gros, ça, on va placer ça autour de 2005. 2005, ouais. En fait, ça commence. D'ailleurs, bah, je passais un petit message. On va dire, en gros, j'ai appris le décès la semaine dernière d'un monsieur qui s'appelait Zeno. Et donc là, je voulais passer un big up, en tout cas, rendre hommage à ce qu'il a pu faire globalement dans le hip-hop ou voilà, et penser aussi à ses proches, etc. Parce que c'est quelqu'un en fait qui a été assez important et assez oublié. C'est qui faisait partie donc du collectif 160. Qui était un collectif de Noisy-le-Grand. Et en gros, ce collectif, il est ultra important dans la localité. C'est un collectif qui a été peut-être un peu oublié, enfin oublié aujourd'hui. Mais entre 2000 et 2005, c'est un collectif qui amène des concepts assez intéressants. Et en gros, je rencontre un jour un mec qui est affilié au 160, à un mariage, tu vois. Et un mec qui s'appelait Robin. Et je parle avec lui, je dis ouais, moi je kiffe le rap, je kiffe de ouf le rap, machin, ça, vraiment je me bute, machin. Il me dit bah vas-y, moi je connais des gars, etc. Tu fais quoi toi, machin? Et je dis ouais, moi je suis plutôt Guetta, je veux taguer tout ça, machin. Il dit ah bah vas-y, je connais des gars, ils ont une association qui se monte à Marne-la-Vallée, à la fac de chant. Si ça t'intéresse, je peux te filer leur contact et tu peux les rencontrer, tu vois. Je dis vas-y, carrément, je suis saucé, machin. Moi tu sais, 160, en fait, quand il m'a parlé de 160, j'avais déjà vu des stickers, des Guetta, il y avait un graphe sur la ligne du RER entre Noisy-le-Champ et Noisy-le-Grand, 160, tu vois. Donc, je captais pas trop qui était dans le 160, mais tu vois, je voyais que c'était un truc un peu implanté dans le coin. Donc vas-y, genre, je prends le contact qui me file, et en fait, j'arrive du coup quelques semaines après à la fac de chant, et en fait, je rencontre, je rencontre Lemdi, Mwax, et je rencontre un troisième, donc qui était en fait la personne dont j'avais le contact, qui s'appelait Igiaphone, et en fait qui était le petit frère d'un mec du 160.
Ok.
En fait, c'est lui, il avait son asso à la fac avec l'MD et Mwax, et il y avait aussi une section danse aussi, il y avait des mecs qui dansaient aussi. Mais voilà, le petit frère d'un des gars du 160, donc s'appelait Igiaphone, big up si un jour il entend ça, il entend cette interview. Donc voilà, je prends contact avec lui, je le rencontre tous les trois, etc. Et donc ça part de là. Vraiment... ça débute là, à la fac de chant, où je rencontre ces trois personnalités. Il se trouve que Lemdi et Mwax, eux, ils étaient déjà plus ou moins affiliés à d'autres gars, qui n'étaient pas forcément dans l'assaut de la fac, mais qui étaient un autre pôle de rap, qui était plutôt entre Noisy et Les Torsi. Et après, en gros, l'assaut en elle-même, ça a duré 2-3 ans. On ça faisait des répètes à la fac de chant. Et à un moment l'assaut elle s'est stoppée, ça s'est arrêté. Avec Igiaphone, ils ont arrêté de travailler, et par contre ça s'est plus rapproché des autres équipes, quoi.
Ok, mais ils ont combien y a combien d'écart entre vous et enfin entre Lemdi, Mwax et toi en termes d'âge?
Je crois qu'il y en a il y a un peu moins de 10 ans.
Ouais, voilà, du coup, ils sont un peu plus grands que toi quand même.
Ouais. Je te dis, moi, quand je rencontre Robin du 160, je suis en quatrième ou en troisième, un truc comme ça. Donc, je commence à fréquenter la fac de chant en troisième.
Ouais, donc t'es au collégien, tu vas dans une fac.
Voilà, exactement. Je vais à la fac. Au début, j'y vais pour taguer. Ouais. En mode, il y a des salles de cours, ça met des grands, du papier sur les murs, tout ça, on essaye de faire des trucs. Bon, moi, vas-y, je suis vite passé à autre chose. Et en fait, je savais qu'eux, ils faisaient des séances de répète. Mmh. Et un jour, je leur ai dit, bah, les gars, en fait, moi, j'écris aussi. Chaud de venir à des séances de répète avec vous, voir comment ça se passe, tu vois, vous écouter, etc. Et du coup, ouais, ils m'ont accepté, je suis venu. Et après, voilà, ils ont fait des petits concerts à la fac, etc. J'ai assisté à ces trucs. C'est les premiers open mic où j'ai pu participer. J'ai pu prendre un micro, m'exprimer sur scène, etc., dans une salle, tu vois, qu'ils avaient réservée pour faire une soirée, etc. C'est les premiers, vraiment, ouais, les balbutiements, quoi.
D'accord. Par rapport à ton rap, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté?
Bon, ils m'ont cadré de ouf. En tout cas, moi, j'étais pas... j'ai fait un peu de piano quand j'étais petit, mais musicalement parlant, j'ai pas une oreille de ouf. Je suis vraiment assez freestyle, je m'y connais vraiment pas en musique, tu vois, enfin en termes de pratique d'instruments, machin. Donc en fait, j'étais pas dans les temps en fait. J'écrivais, mais j'écrivais à l'arrache en fait. Je prenais pas en considération les temps, la prod, etc. En fait, j'écoutais du rap depuis plus de 10 ans et en fait, j'avais presque pas conscience des temps en fait.
Les mesures, etc.
Des mesures, en fait, tu vois, j'entendais les instrus, j'entendais les trucs, ça me tapait, ça me marquait, mais en fait, en vrai, en termes de comment c'était agencé, en fait, je faisais même pas gaffe à ça en fait.
Et ton permis de décrypter.
Voilà, ils m'ont permis de décrypter en mode, ils m'ont entendu rapper, ils m'ont dit wow, qu'est-ce qui se passe? Wow, calme-toi. Et tu vois, genre, et du coup, ils m'ont expliqué, voilà, tu sais, voilà, il y a la grosse caisse, il y a la caisse claire, voilà, il y a la mesure, etc. C'est 4 temps, etc. Ah, ok, putain, moi, je savais pas, moi, tu vois, machin. Ok, bon, bah, tu vois, la semaine prochaine, tu fais un texte et à la fin de la mesure, sur la caisse claire, tu fais une rime à chaque fois et tu fais ça 16 fois, quoi. Tu vois, machin. Des exemples comme ça de. Juste de dire, voilà, reprends en considération les temps, etc. C'est pas, t'écris pas et c'est en mode, ça va sortir, c'est naturel et ça va rentrer normal. Non, t'as un calcul de comment ça se passe, comment ça s'agence quand même. Ouais,
grâce à eux, t'es rentré dans les mathématiques du rap, entre grandes guillemets.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et ils t'ont donné des bases plus que solides.
Ouais, en tout cas, pour les séances de répétition qu'on faisait à la fac, tu vois, ça m'a donné un recul sur... sur ce que je faisais, en tout cas, le fait d'interpréter des trucs face à des gens, que les gens ils me disent non, là c'est pas bien, là c'est un peu mieux que la dernière fois, ou toi. Et des fois, même l'MD, il enregistrait les séances d'enregistrement sur des MD. Tu vois, et
mini disque.
Ouais, complètement. RIP, les MD. et du coup, on écoutait ça, et en fait, on écoutait les enregistrements après, et là j'entendais ma voix, et je me dis waouh! C'est terrible de faire ça. C'est terriblement nul, tu vois. Et en fait, ça me permet d'avoir un recul sur un peu sur ce qu'on faisait, quoi. Mmh. En mode, ah ouais, il y a du taf. Ah ouais, ça, machin. Donc, c'était ça m'a apporté pas mal de choses sur le recul et sur le fait que, voilà, il fallait observer un peu et travailler, quoi.
Ça t'a permis de développer ta pratique.
Ouais, carrément.
Ok, du coup, à quel moment tu rentres dans l'artisan du mic?
Bah là, c'est pendant... en gros,
t'es au lycée?
Ouais, en fait, je suis au lycée et en gros, donc comme je disais, l'MD et moi, que s'ils avaient été affiliés à d'autres artistes en parallèle de l'association, et en fait, donc l'MD faisait partie d'un groupe qui s'appelait L'Arme à l'âme et avec d'autres rappeurs et donc ouais, il y avait Circa, Cuny et je me rappelle plus du blast des autres rappeurs, mais en tout cas pour les gens que j'ai connus, je sais qu'il y avait Sharif, enfin bref. En tout cas, bon, il faisait partie de L'Arme à l'âme, et donc une des têtes de L'Arme à l'âme, en tout cas, il y avait DJ Jim, en fait.
Ok.
DJ Jim, qui était le DJ de ce groupe, et en fait, en 2002-2003, ils ont sorti une tape qui s'appelle Freestyle Fury, qu'ils ont sorti en cassette, et c'était une cassette de rap français, mode phase B, où ils avaient invité plein de rappeurs.
C'est laquelle? C'est celle qui est bleue?
C'est la bleue, ouais.
Ok, celle-là.
Avec le corps sur le sol. Exactement. Là, tu vois.
Je l'ai encore sous blister.
Voilà, classique. Classique du 77, classique du rap français. Et cette cassette, en fait, pareil, j'avais vu des stickers un peu, mais tu vois, vu dans mon coin, tu vois, entre Champ, Torcy, Noisiel, tu vois, et Long, tu vois, j'avais vu des trucs, des stickers, machin, mais bon, tu vois, j'avais pas pu écouter le truc. Et en fait, en rencontrant l'MD, donc je capte que c'est son équipe qui a fait cette mixtape. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sont motivés, toute cette équipe-là, enfin Jim en tout cas en organisateur et en meneur, quoi, un peu. Ils se sont organisés, ils se sont dit, on va faire le volume 2. On va faire un volume 2 Freestyle Fury. Mmh. Et là, ils voulaient faire une tape plus focalisée sur les artistes du 77. Parce que Freestyle Fury 1, il y a un peu de. Tu vois, il y a plein de gens, c'est ouvert, tu vois. Il y a des groupes sur la une, il y a des groupes comme Saccage Chronique, il y a La Caution dessus. Sur Freestyle Fury 1, il y a Dice et Vesti, donc c'était Phonique et ça à l'époque, la structure. Donc eux, ils étaient dans un 6-0 à l'époque, justement.
Dice Diggy.
Diggy Dice. T'avais plein de trucs. Et en fait, le 2, ils se sont dit, on va quand même se focaliser un peu sur les gens du 77. Et donc, du coup, moi, je traînais beaucoup avec donc, toute cette équipe. Donc, qui est devenu en fait Bunker Prod, en tout cas par rapport au local dans lequel Jimmy bossait et il était, quoi. En gros, on était toute une équipe de rappeurs. Donc, il y avait Smooth, donc l'MD, Mwax, donc Circa, donc Cuny, il y avait Donc j'ai bien dit Smooth. Ouais. Voilà. Et moi j'étais le plus jeune de l'équipe en fait. Et au début Artisans du Mic, ils étaient. Au début Artisans du Mic, ça devait être que trois rappeurs, c'était, voire quatre. C'était Lemdi, Mwax, parce que Mwax à la base n'était pas dans l'arme à l'âme. Mais en gros Artisans du Mic, quand ça a commencé à se créer autour du projet Freestyle Fury 2 ou un petit peu avant, mais en tout cas dans cette époque-là, c'était vraiment Lemdi, Mwax et Circa. C'était les trois rappeurs vraiment Artisans du Mic. Et après, il y avait Cuny aussi, qui était le ref de Circa. Et en gros, bon, en fait, vu qu'on faisait plein de morceaux ou qu'on traînait souvent ensemble, il y a un moment, je ne sais plus pour quelle raison, Artisans du Mic, c'est devenu un collectif plus qu'un groupe de quelques rappeurs. Et du coup, là, ça a englobé des gens comme Smooth. Il y avait un mec comme Lazy, mais qui n'est pas resté très longtemps. Il y avait Fatcom, du coup. Et du coup, il y avait moi qui étais dans l'équipe, machin. Donc, j'ai été affilié à Artisans du Mic. Et donc, c'était un collectif. Et en fait, après Freestyle Fury 2 et après la connexion avec Coffee Break, donc avec Dice, Artisans du Mic, c'est devenu Lemdi, Mwax, Smooth et moi. On okay. était quatre.
Ouais, c'est quelle année, ça?
Et là, c'est entre 2007 et 2009.
Okay.
Et là, on fait les soirées Valmop Finest à Tournan-en-Brie. Et on en a fait pas mal. Et ouais, donc les concerts Artisans du Mic, là, à ce moment-là, c'est vraiment ces quatre rappeurs, quoi. Enfin, nous quatre,
okay.
quoi.
Okay.
Mais non, vraiment, avec Artisans du Mic, on a vraiment fait. Bah, le pub ADK, ça a été la grande époque, quoi. On avait fait des soirées là-bas qui étaient chambées, quoi. Enfin, la première édition, c'était un bordel, quoi. On avait réussi à l'époque à rassembler plein de gens du coin du 77, quoi. C'était le pub ADK, c'est j'ai dit Tournan avant.
Ouais.
Ouais, non, je me suis complètement gouré, c'est à Roissy-en-Brie, excusez-moi. Mais c'est ouais. sur la ligne E.
Oui.
Voilà, mon cerveau il déraille, mais j'arrive à retomber sur mes pattes. Mais non, c'est Roissy-en-Brie. Voilà, rien à voir.
De toute façon, le 77 c'est méga grand.
C'est donc très
tu
grand.
Tu peux pas tout connaître et tout, te rappeler à la perfection.
Voilà, mais là on est sur la ligne, en fait, là je te vois direct, on parle d'un secteur, là, c'est Roissy. Ozoir-la-Ferrière, Tournan, il y a aussi Ponto Combo, pas très loin, tu vois. Voilà, tout ce secteur-là, voilà, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais non, Roissy-en-Brie, ouais, le pub ADK, grande époque, le pub ADK qui a fermé depuis, à cause de la mairie. Mais c'était chambé, quoi. Il y avait un local d'expression, en tout cas, il y avait plein de concerts de différents types de musique là-bas. Et nous, en fait, avec moi, c'est Jim et tous les gens du Valmob. Ouais, on a organisé des soirées là-bas et c'est, à chaque fois c'était chambé, quoi. Et beaucoup de gens, c'était lourd de ouf.
Moi, la première fois que j'entends parler de DJ Jim, c'est par rapport à mon zinc Ryu et que je crois qu'il est dans la 2.
Yuri ?
Ouais.
Il est même sur la première, même.
Ah, voilà, ouais.
Mais parce que moi, le swing.
Ouais, le swing, c'est sur ça, c'est sur la première.
Au swing, le soir
incroyable. Ouais. Ça, je l'avais sur un CD gravé, du coup, je savais ouais. pas de où c'était. Ça sortait.
C'est sur le 1, ouais.
Incroyable, ouais, mais son son sur la 2, il est vraiment chaud aussi.
Oui, très chaud, très très
du
chaud.
Du coup, avec l'artisan du Mic, vous avez fait quoi en discographiquement parlant?
Et bah, à part Freestyle Fury 2, du coup, où à l'époque, t'as tous les gens qui gravitent dans le collectif Artisan du Mic, d'un point de vue discographique, il n'y a rien. En gros, il y a un album, enfin une tape, on va dire un projet de Lemdi et Mwax qui s'appelle Artisan du Mic, qui est sorti avec Coffee Break en 2010 ou 2011, un truc comme ça. Et dessus, donc c'est que des morceaux de Lemdi et Mwax, mais il y a un morceau avec Artisan du Mic dans la configuration Lemdi, Mwax, Smooth et Wham. Et t'as aussi la compile Café Crème de Coffee Break, ouais. qui est une compile de catalogue un peu de tout ce qu'ils ont pu sortir. Et là, en fait, il y a un morceau Artisan du Mic avec aussi un rappeur qui s'appelle M-Tis. Mais sinon, en fait, en gros, à part MySpace, où on a sorti pas mal de trucs dessus, on faisait des binômes un peu, tu vois. Moi, je faisais des binômes avec Mwax, des fois avec Smooth. Inversement, Lemdi et Mwax faisaient des trucs entre eux, etc. Lemdi faisait des sons avec Smooth. Enfin, tu sais,
des plusieurs combinaisons.
Ouais, on faisait des combinaisons, tout ça. On a pas mal maquetté des sons et en fait, on a bossé en parallèle de l'album, du premier album de Lemdi et Mwax, Négropolitain. On a aussi commencé à travailler un album Artisan du Mic, ou un EP en tout cas. Et donc là, on avait bossé avec Lumi, avec Fritz, avec Jim aussi, du coup. Et moi, à l'époque, je faisais des prods aussi, donc il y avait des prods à WAM. Et en fait, ces morceaux, ils n'ont jamais été mixés, finalisés, et c'est jamais sorti, quoi. T'as un morceau qui s'appelle Rivalité, qui est produit par, par Lumi, qui est sur YouTube, où c'est des passe-passe. Moi, je fais un passe-passe avec Moax, Smoothie fait un passe-passe avec Lemzy. Et ça, ce morceau, avec, je te dis, les deux autres morceaux dont j'ai parlé, c'est, voilà, c'est un peu les rares morceaux trouvables de ce groupe-là. Sinon, non, on n'a jamais finalisé de projet. Ça n'a jamais été.
C'était plus un collectif ou un groupe de scène, quoi. Ouais,
ouais, c'est ça. En fait, déjà de base, il y avait tout le délire autour de Freestyle Fury 2 et de ce collectif. En fait, il y avait plein de gens. Ça s'était resserré autour de nous. Et en fait, ouais, à l'époque, on faisait des fêtes de la musique, des fêtes de quartier. On a fait beaucoup de concerts de fêtes de quartier, tu vois, à Champs, à Noisiel, etc. Les gens, ils nous disaient, ouais, on cherche un groupe de rap, machin, vas-y, bon, vas-y, lourd, on y va, histoire de se faire un peu connaître dans le coin, etc., tu vois, il y a eu les soirées qu'on a organisées, mais en vrai, ouais, à part ça, non, il n'y a pas eu de, on n'a pas finalisé de projet, quoi.
D'accord, et du coup, après ça, est-ce que c'est là où apparaît un projet, je sais que t'aimes pas ça, hein, mais 8e passager, ça arrive après ça, ou pas?
Ça arrive, 8e passager, c'est... C'est quoi ça? C'est... Je le sors en 2010, mais c'est des morceaux écrits un peu dans cette période, entre 2008 et 2009. Et là, c'est déjà dans la volonté de, à l'époque, en fait, en gros, je faisais des prods et je voulais faire un projet un peu, voilà.
Autoprod.
Ouais, complètement. Et à l'époque, en fait, moi, voilà, en parallèle de tous ces collectifs et ces gens avec qui je travaillais, moi, en fait, je faisais du son à la MJC de Noisiel. À la Maison pour tous à Noisiel, ouais. Et il y avait un local MAO,
ouais.
En fait, et là-bas, en fait, je faisais des prods, je m'enregistrais, je faisais des trucs, quoi, donc j'ai commencé un peu à tâtonner là.
Donc t'as appris à maqueter là-bas tes trucs?
Ouais, voilà, enfin, tout seul, en tout cas, ouais. Donc j'ai commencé un peu à bosser des sons, etc., que j'ai jamais sortis, j'avais formé un groupe avec un poteau qui s'appelait Noé, qui s'appelait From Hell, on avait appelé ça From Hell, et on sent pareil, on avait sorti quelques sons sur MySpace, c'était WAM qui faisait les prods, etc. Et il était chaud Noé, mais après on s'est un peu perdu de vue, en tout cas dans les objectifs on a un peu split, quoi, mais il y avait une petite énergie, c'était cool, et en fait du coup 8e passager, ouais, c'est dans l'initiative de me dire vas-y, je fais un truc, je le finalise, ouais, faut juste que dans ma tête je me dise j'ai fini un projet, je l'ai fait, je suis capable de faire ça, quoi.
La première pierre.
Ouais, voilà, exactement. Et du coup à l'époque il y a SoundCloud, même avant de le mettre sur SoundCloud je le mets sur Mega Upload, qui a sauté après Mega, ouais. Upload, ouais.
RIP
RIP la VHS aussi, on n'a pas parlé de la VHS,
ouais. Ouais.
Mais en gros, ouais, 8e passager, c'était, ouais, ouais, c'est, ça rappe très mal. Mais,
ouais, mais c'est comme tous les premiers projets qui datent, c'est, ouais, c'est un peu normal.
Non, mais là, 8e passager, si des gens arrivent à écouter ça ou à tomber dessus, je suis en pleine recherche de voix, je suis en pleine recherche de flow, je suis en pleine recherche de tout. Juste, je suis plus dans les temps, et à l'époque, c'est avant la vingtaine, et juste moi, il fallait vraiment que je finalise un truc. Il fallait vraiment que dans ma tête, je me dise, je fais un projet, je le clôture, je fais genre je le mixe, et hop, c'est fini, j'ai une pochette, je le grave sur CD.
La pochette était cool.
La pochette était lourde, ouais. C'était un poteau à Rome qui avait fait. C'est Quentin qui a fait aussi c'est lui qui a fait le visuel quelques années après du single, enfin du morceau 240.
Oh, l'un de mes morceaux préférés.
Le visuel est lourd aussi.
Oui, oui, oui.
Donc,
on est en 2010.
Voilà, tout à fait.
Là, en 2010.
2010, tout à fait. Et là, voilà, donc je finalise ce truc et je le sors et. Et je suis content de sortir un truc, hop, c'est fini. Mais je sens déjà que je commence à rencontrer Skyle, Alpha One, etc. Pas mal de rappeurs de ma génération. Et en fait, en réécoutant le projet, je me dis, je suis en retard. Il y a un truc qui va pas, en fait. Je le sors parce que j'ai besoin de débloquer un truc psychologiquement dans mon cerveau. J'ai, ouais, besoin de me dire, hop, je le fais. Mais en fait... J'ai trop glandé, en fait. Là, il y a du travail. Là.
Après, t'as dit toi-même, c'était des sons qui dataient d'un an ou deux, que t'avais écrit bien avant.
Ouais, donc, c'était entre 2008 et 2009, tu vois, des, ouais, trucs qui se sont faits dans cette période-là, en parallèle d'Artisan du Mic, tout ça, quoi.
Mais du coup, en 2010, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on se rend compte, hein, je crois. Hein.
Ouais.
C'est un concert de Mirage. ça.
Ou Magnetic Band.
Ou Magnetic Band, ouais, sur Paname.
Ouais, la Dame de Canton, je crois.
Ok, on était tous les deux à la fac.
À ce moment-là, je suis allé encore à la fac, ouais.
Ouais, moi pareil, je crois que je suis en première année ou deuxième première année, vu que je suis un. Tu vois.
Ouais.
Et après, je connecte avec toi et tout ça.
Ouais.
Et peu de temps après, tu me dis, bah vas-y, pas chez moi, j'ai une coloc, tout ça.
Ouais.
Et j'arrive. Pour la première fois de ma vie. Non, pas pour la première fois de ma vie, je suis un fou parce que ma cousine habitait juste à côté de chez toi.
Ouais.
J'arrive au Valmob et j'arrive bah, à la.
La Walt Cave.
Donc on va parler de cet arc, s'il te plaît. C'est la Walt Cave.
La Walt Cave.
Donc bah... t'étais en colocation avec Bessé.
Avec le frère Bessé. Et qui est 7-7 oui, le 7-7 tout à fait. Grande coloc, grande époque.
Ah, c'était.
C'était un grand moment. Vraiment, ça durait 2 ans à peu près.
Ah, ça a duré que 2 ans?
Ouais, je crois.
Putain, j'ai l'impression que ça avait duré 3-4 ans, gros. Putain.
Peut-être 3 ans max.
Le temps
mais...
s'est arrêté.
Non, j'ai on est arrivé là-bas début 2011.
Okay.
Et on a dû décaler. Attends que je dise pas de dinguerie. 2014, non. Ah non, moi, non 2013. Début okay. 2013, on a 2 ans.
Ouais. Ah oui, il a deux temps ans. Très, très court.
2 ans, ouais. Et en fait, bah, moi en gros, je faisais un peu de son chez mes parents. J'avais un ordi, tout ça. En parallèle de la MAO, je commençais un peu à quitter la MJC à Noisiel. Et du coup. Je faisais des prods chez moi, en fait, j'avais un logiciel, tout ça. Enfin, j'étais sur Acid. Et en fait, à la vingtaine, tout ça, j'ai un plan, à un moment, une pote qui me propose une coloc à Champ, mais pas très loin de chez mes parents, tu vois, à Pablo Picasso. Et vas-y, en gros, je me dis, bon, vas-y, là, je suis à fond dans le rap, en mode, je rencontre plein de gens qui font du rap. J'ai grave envie de continuer à progresser, etc. Vas-y, c'est le bon moment pour que je parte de chez mes parents. Et que je me focus un peu là-dessus, quoi. Donc, en tout cas, je sentais que c'était le bon moment pour prendre mon envol, tu vois, de me dire, vas-y, quitter le nid familial, ouais, le cocon, tout ça, et de me dire, vas-y, je suis épaulé, j'ai des proches, etc., avec qui je suis dans le même délire. Voilà.
Tu as senti que c'était le moment, quoi.
Ouais, c'était le moment de partir, tu vois, de bouger, de vivre sa vie. Je travaillais en parallèle, j'avais un taf alimentaire, je travaillais au cinéma de Torcy, au CGR. Donc voilà, je faisais ma vie, tu vois, genre en mode. Et j'ai eu une année sabbatique à la fac parce que je devais repasser une UE ou un truc comme ça en examen terminal. Donc en fait.
T'avais du temps, quoi.
J'avais un peu de temps, quoi, tu vois. Donc en gros, on a eu cette coloc.
Ouais.
Et c'est là où j'ai commencé à avoir un petit home studio, un peu de matériel. En partie grâce à l'Ocilos.
Okay.
Qui aussi était dans le collectif Valmob. On n'a pas parlé précisément du collectif Valmob, on a parlé d'Artisans du Mic, etc.
On allait en venir.
Mais voilà, le Valmob, il y avait encore pas mal d'entités dedans. L'OSI a été assez important à cette époque, dans le soutien et dans un peu l'aiguillage de voilà, me conseiller des trucs de matos, tu vois.
Donc merci l'Ocilos.
Bah de ouf. L'Ocilos, il est grave important dans mon évolution et dans tout ce qui s'est passé par la suite. En tout cas à l'époque, on était vraiment ensemble et ouais de ouf.
Du coup, on est à la coloc. Moi, la première fois que j'arrive là-bas, c'était pour poser un son avec toi sur une prod de Onra.
tout à fait.
Un son, je sais pas où il est le son là, mais bref. Et
Il me faut une feuille et un stylo dans un truc.
Oh, c'est ça.
Il me faut deux feuilles.
Ah ouais, c'est voilà. Un truc du genre.
Plutôt deux feuilles. Ouais. Plutôt un deux feuilles.
C'est vrai que je réécoute ce son. Mais quand t'arrives là-bas, tu fais un projet qui est, vas-y, on peut le dire maintenant, qui est classique. Donc on va parler de Petit Meurtre entre amis, s'il te plaît.
Ok. Bah, vas-y, carrément, parlons de ça.
Donc si t'as quelques anecdotes, tout ça, let's go. Hein.
Let's go. Bah, Petit Meurtre, en fait, c'est réalisé en parallèle, en partie dans la Wild Cave, mais c'est aussi réalisé dans un studio qui est près de Coulommiers,
oui.
Le Jinko.
Oui.
C'est ça.
C'est le studio qu'on voit dans le freestyle de Gizmo, les plus
petits. C'est ça, exactement, voilà. C'est là où
t'as enregistré un ou deux pussy cuts du truc, là.
Voilà, là-bas,
Fidèle au poste,
c'est là-bas.
Exactement.
Fidèle au poste. En fait, comme je disais avant... ce studio-là, en fait, donc c'était par, on était connecté par Coffee Break, par Dice, c'était chez Rico, en fait, et du coup c'est là-bas, en fait, qu'ils ont travaillé l'album de l'MJ Mwax Négropolitain, et c'est là-bas aussi qu'on avait commencé à travailler l'album d'Artisans du Mic. Donc c'était un studio que je connaissais un petit peu, j'avais commencé à me former un peu sur l'édit et sur pas mal de prises, en fait, et c'est là aussi que j'ai réalisé 8e Passager en vrai. Mes séances d'enregistrement, je crois que toutes mes voix de 8e Passager sont enregistrées là-bas.
C'est un lieu que tu connaissais déjà bien.
Voilà, un lieu que je connaissais et j'étais assez... on va dire, j'avais mes repères, quoi. Et, et en tout cas, toutes les sessions qu'on avait fait, ça m'avait assez formé. Et du coup, bah, un jour, je me suis dit, vas-y, je vais réserver le studio pour un week-end et je vais inviter des gens et on fera les morceaux qu'on pourra faire, quoi. Et donc là, en fait, ouais, on s'est retrouvé au studio, on a fait Question de Cran et Fidèle au Poste.
Donc, tu peux rappeler un peu le casting des Avengers que tu as ramené, s'il te plaît ?
Voilà. Ce qui est particulier, c'est qu'on a commencé par Question de Cran. Sur une phase B de d'Amou. Et donc le morceau dure 15 minutes, je crois, un truc comme ça, un peu moins. Et on a fait un concept, en fait, de bah, tous les gens qui étaient là, si vous voulez rapper, ils rappaient. Du coup, là, tu vois, je vais pas pouvoir citer tous les rappeurs, mais dessus, donc, du coup, t'as Skyle, t'as Kerway, il y a VG, il y a Nekfeu, il y a Alpha, il y a Gizmo, il y a les gars du Valmob, Smooth, il y a LMD, il y a Hugo Délire dessus aussi. Ouais.
Bah, du bon monde, quoi.
Il y a Sango dessus aussi.
Ouais, oui, bah, dans la vidéo du Fugitif, du Gizmo,
il est dedans.
Tu le vois enregistrer un truc dans la cage.
Exactement. Voilà. Moi, je suis en train de. Je dors au fond du studio, dans la vie quotidienne, là où il y a Sango qui chante là. Tu me vois pas, mais il y a un cadavre qui dort. mais en gros, ouais, il y a tout ça, en fait. Et en fait, on fait une session où on sait pas trop où on va aller, quoi. Mais en tout cas. La prod, moi je pose le premier couplet et le concept c'est vas-y.
Ça enchaîne derrière.
Enchaîner les gars, machin, donc on alterne, etc. Et on arrive à un truc assez massif. Et arrivé une certaine heure, moi je vais me coucher. Et le lendemain, en fait, ça se réveille. Et on a encore une petite équipe de gens. Il y a encore Kerway, il y a encore Icar. Oui, il y avait Icar aussi. Encore l'MD. Il y a pas mal de monde. Et en fait, on enchaîne un deuxième freestyle, c'est Fidèle au Poste, qui est plus court, mais en même temps, il y a moins de rappeurs, mais il y a des couplets assez longs dessus. Bah, il y a Nino Rice aussi,
oui.
Voilà, qui est sur Question de Cran. Et sur
c'est vrai.
Gros big up, Nino Rice. Et du coup, voilà, on continue la session avec tout ce monde, quoi. Fidèle au Poste, c'est une prod de Lumi. Et voilà, et après, je crois que là-bas, pour Petit Meurtre entre amis, je crois qu'on refait un morceau avec Nino Rice et l'MD, c'est Je Shoot. Et je crois que c'est les trois morceaux qu'on a enregistrés là-bas.
Non, tout le reste, tu l'as fait à la Wild Cave.
Ouais, sinon, le reste, c'est à la Wild Cave, ouais. Ouais, carrément. Ouais, tout le reste, c'est enregistré. Ouais, c'est ça. Hein.
Tu l'as fait en combien de temps, le projet ?
Ouais, avec les morceaux que j'avais déjà en cours, etc. J'ai dû prendre 5-6 mois. Ouais, parce que non, mais même le morceau Le Doute est permis avec l'MD, c'est au studio Jinko. Quelques trucs comme ça qui ont été faits. Mais globalement, même il y a Je Touche du Bois, on l'a enregistré chez Tadé à Ponto. Donc il y avait quand même quelques morceaux qui ont été enregistrés un peu à droite à gauche. Mais le fait d'avoir la Wild Cave, en fait, c'est des morceaux qui étaient déjà en cours. Et le fait d'avoir la Wild Cave, ça m'a permis de rassembler tous ces morceaux, d'en faire d'autres. Et d'avoir une ligne directrice un peu, et de finaliser avec voilà, Skyle, d'autres morceaux, etc. Donc, ouais, c'est. La Wild Cave pour ce projet, ça a été une manière de bien ancrer le projet.
Est-ce que c'est le premier projet que tu enregistres là-bas ?
Oui.
Ouais.
Le premier morceau, enfin, j'ai fait quelques maquettes qui ne sont pas sorties, mais c'est le premier truc que j'enregistre.
Du coup, il sort en 2011 ?
Ouais, il sort en mai 2011. Ouais.
Ok.
Ouais.
Et pour l'anecdote, une autre fois, je suis revenu chez toi, parce que je venais beaucoup
bien sûr.
Là-bas. Et t'avais reçu tes CD. Et je t'ai dit, ah bah, les CD sont là, je t'en prends un. Et je suis le premier gars à t'avoir acheté un CD de Petit Meurtre entre amis.
Tu l'as acheté, c'est-à-dire que je te l'ai pas offert ?
Je t'ai dit, tiens, dis au bal, parce que gros, il faut que tu vois.
Je suis vraiment une ordure. Je suis
non.
vraiment un radin de ouf.
En fait, c'est non, c'est moi qui t'ai dit, gros, je parle pas de donner, je prends les 10 balles, tout ça. Et ouais, avec du recul, j'aurais dû en prendre deux.
Il m'en reste.
Ah,
il m'en reste plus beaucoup, mais les boîtes, en fait, se retrouver dans un carton où les boîtiers sont un peu pétés, tout ça. Bon, j'ai juste à changer les boîtiers, les CD sont en très bon état. Mais il m'en reste une petite dizaine, une petite vingtaine que j'ai coffré, quoi, que j'ai mis de côté.
Bien fait.
Il m'en reste quelques
ça, temps. En vrai, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet classique, tu vois. Le casting, maintenant, tu le refais, les maisons de disques, elles s'arrachent les cheveux avant qu'elles veulent signer ça, tu vois.
Ah, mais de ouf. En tout cas, c'était vraiment un truc dans une époque. Au début, le projet, il est sorti en téléchargement gratuit, tu vois.
C'était sur quoi, Mega Upload encore ?
Bah ouais, je l'ai mis sur Mega...
Facebook et tout.
Ouais, tu sais, genre, je l'ai mis sur Mega Upload et sur SoundCloud. Mm. Et en vrai, tu sais, à l'époque, en fait, c'est assez particulier la manière de diffuser sa musique, où en fait, moi j'avais pas conscience de comment ça pouvait se passer. Et en fait, avec Internet, bah...
C'était le début de tout, en final.
Tu te dis, tu sais, MySpace c'était fini, il y avait SoundCloud, et en fait, pour un artiste indépendant qui se développait comme ça, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de développer sa musique gratuitement.
Ouais.
C'était un moyen de se faire connaître, tu vois. Et,
il y avait beaucoup de NetTape qui sortaient à ce moment-là.
Ouais, ouais, de ouf. Et en fait, du coup, quand j'ai fini Petit Meurtre entre amis, et que j'ai vraiment envie de le sortir parce que faut pas que ça tarde, etc., que je me dis, vas-y, il y a un truc qui est sur le feu, qui est sur le vif, il faut le faire ça pour passer à autre chose derrière, bah, ma seule solution, c'est sortir ça gratuitement, tu vois. T'avais aussi, quelques mois avant, il y avait le projet de 5 majeurs qui était sorti.
Ah ouais
aussi, tu vois.
Ah oui, c'est juste avant.
Esquisse, une âme, Vigi, Kerouet et Nekfeu.
Ouais.
Et ça sort l'hiver. Pareil, gratuitement sur Internet.
Exactement.
Et moi, j'étais déjà en train de faire Petit Meurtre entre amis. Okay. Donc, dans toute l'émulation de tous ces gens, en fait...
Ouais, c'est vrai que c'est sorti peu de temps après, je me rappelle.
Vas-y, je me dis, vas-y, faut le mettre en gratuit. Mais du coup, tu vois, à l'époque, j'ai pas démarché de distrib pour créer un CD, pour le mettre en bac. Tu vois, pour moi, je m'en battais complètement les couilles. C'était vraiment... fallait le sortir, tu vois. Et du coup, bah, à la rentrée, après, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire des CD, je vais faire des morceaux en plus, je vais mettre des petits inédits, etc. Et je vais le faire en physique, quoi. Tu vois.
C'est la première fois que tu as un CD à toi dans les mains.
Ouais, de ouf.
Ça t'a fait quoi?
De ouf. En gros, bah, pour la petite. Après, moi, je suis pointilleux. C'est pas du pressage, c'est de la dupli. Donc, le CD, il est pas. C'est pas encore le CD ultime.
Je te reconnais bien, là.
Tu vois. C'est. Voilà. Mais j'en ai fait 300.
Oui, mais quand même.
Ouais, non, mais pour moi, c'est de là, c'est en mode dans un circuit, dans un circuit parallèle, etc. C'est un aboutissement.
Exactement.
C'est un truc, voilà, je réponds à une demande.
C'est une première étape.
Voilà, c'est une étape qui est faite. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à pas faire le CD après, quoi. J'ai fait ce CD-là, et je crois que le CD qu'on a fait bien plus tard, c'est Substance M avec le Bohemian.
Ouais, ça arrive au moins 4-5 ans après.
Et ça arrive...
C'est en 2018.
Ça arrive 6-7 ans après, c'est 2018.
Ouais.
Tu vois, moi, les CD de Petit Meurtre entre amis, c'est 2011.
Très belle pochette, Substance M.
Ouais, de ouf.
C'est l'un de mes projets préférés du Bohemian. On en parlera tout à l'heure.
Ouais, et voilà. Mais en tout cas, tu vois, tous les projets d'après, je fais pas de CD. Donc ouais, c'était un marqueur, quoi.
Ouais, moi, je voulais rendre hommage à la Wild Cave, parce que c'était quand même un lieu de hip-hop de fou des années 2010, le nombre de rappeurs que j'ai croisés et connus là-bas, c'est fou, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens des quatre coins que j'ai connus, genre, tu vois, les mecs de BPM,
ouais.
Même un gars comme Caballero, c'est chez toi que je l'ai connu en premier,
ouais.
Tu vois, il y avait, enfin, effectivement...
Giorgio.
Ouais, Giorgio, il y avait même Pandore qui passait.
Ouais.
J'ai vu qui ? J'ai vu les Fix Pencil, je les ai vus chez toi aussi. Non, c'est une dinguerie. En fait, je crois que tout le rap des gens de notre génération, quasiment, ils sont passés chez Watt.
Il y a plein de gens, pas tous, mais...
Une bonne partie.
En tout cas, tu vois, on a... En tout cas, les gens avec qui j'ai sympathisé, en tout cas, tous les gens qui sont venus, tu vois, on avait une bonne entente, etc. Et on a eu l'occasion de faire...
Même Diaby. La première fois que j'ai vu Diaby, c'est chez Watt.
Bien sûr, Diaby, il venait avec Georges.
C'est à l'époque de 22h-6h.
Voilà, 22h-6h.
Et il tenait des petites skills par rapport pour mixer et tout ça.
Voilà, complètement. 22h-6h, c'est simple. 22h-6h, c'est sorti un an après Petit Meurtre entre amis, en 2012. Autour de mai-juin, un truc comme ça. Et ouais. Pareil, bah, sur 22h-6h, bah, là, il y a l'homme pâle, il y a BPM. Enfin, il y a Batty et Motas. Il n'y a pas Laurent dessus.
Il y a Caballero.
Il y a Caba, donc il y a Giorgio.
La première fois que j'entends des sons de jeunes morts, c'est sur 22h-6h aussi.
Il y a, ouais, exactement. Exactement. À l'époque, c'était Zonar.
Ouais.
Donc, ouais, il y a Horus aussi.
Exactement.
Horus qui est sur 22h-6h. Ouais, non, il y a du monde. En fait, c'était important de. T'as aussi les mecs du Bateco, t'as l'MD et Mwax.
On rase les murs, là.
On rase les murs, voilà, avec l'MD et Mwax, c'est Horus et Rislo et Marvel, El Camille, quoi. Et en fait, voilà, moi, t'as vu, genre, j'ai grandi dans 77, etc. Et en fait, y avait Skyle aussi, tu vois, qui était sur Collégien, mais tu vois, genre, il y a eu des ponts entre la génération sur Paris et on va dire. L'entourage que j'avais autour de moi dans ma localité.
Oui, t'as fait le lien entre les deux, toi.
Tu vois, c'était. Bah, de toute façon, moi, j'avais. Enfin, là où j'ai grandi, il y avait plein de tueurs, plein de rappeurs ultra chauds. On a une grande scène, t'as vu, tu connais un peu toute l'histoire du coin, mais en vrai, il y a quand même un bagage, tu vois, et en vrai, entre Time Bomb, tu vois, l'école, un peu, même l'école 45, un peu, tu vois.
Oui, il y a tout ce qui est Valley FM.
Ouais, tu vois, Nasme, etc., tu vois. Il y a plein de ponts, en fait, qui se font. Mais du coup, moi, la localité, c'était ultra important. Et de toute façon, moi, le studio, il était à Champs, tu vois. Donc, si tu voulais venir, c'était là que ça se passait, quoi.
Ouais.
Mais,
Puis même la Wildcat, en vrai, de vrai, à l'époque où on parle de ça, c'est, ouais, c'est quoi, t'as dit 2010, 2011, tout ça. Il n'y a pas énormément de studios, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit home studio.
Ouais, t'as des trucs, hein. Moi, je me rappelle, à l'époque des Night Tape, tout ça, t'avais quand même des studios à Lani, à Torini, il y avait des gars, tout ça, un peu à droite, à gauche. Mais
ouais,
oui.
Mais non, après, toi, c'est, le truc, ce qui était bien, c'est que tu pouvais venir poser, rec, tu peux chiller, bah, fumer, etc. Tu vois, tu pouvais faire ta life là-bas, tu vois.
Ouais, bah après, ça, c'était, tu vois, la Wild Cave, c'était vraiment chez moi. C'était pas un studio, tu vois. Où j'enregistrais des gens, ou genre je me professionnalisais pour être ingé. Tu vois, c'est, en fait, j'ai essayé de mettre un peu une patte dans le mix ou dans le rec, et en fait, ça m'a vite saoulé. Et en fait, à l'époque, en gros, j'aime pas trop être trop enfermé, donc en fait, j'ai besoin de sortir et j'ai besoin d'aller voir ailleurs, tu vois. J'ai besoin de respirer. Et du coup, ce spot était chambé pour tout le délire créatif, le fait de squatter avec des potes, etc. Mais je pouvais pas m'y enfermer non plus. Puis je travaillais aussi en parallèle, quoi. J'ai fait plusieurs tafs alimentaires. Mais j'avais besoin de sortir, quoi. Aller sur Paname.
Ouais, de toute façon, tu rides beaucoup.
Voilà, rider, etc. J'avais besoin de ça. Du coup, j'ai pas perfectionné ou approfondi tout le côté ingé, tu vois, mix, etc. Même les prods, j'ai arrêté les prods, tu vois. Genre, dans cette époque-là, en fait, je rencontre plein de beatmakers ultra chauds et je vois que j'ai un peu de retard en termes d'écriture, en termes de rap par rapport à d'autres rappeurs qui sont ultra chauds. Et je me dis, bah vas-y, je lâche la prod.
Tu vas privilégier le rap.
Je privilégie le rap. Et là, tout ce qui est mix, etc., où j'avais déjà jeté des petits coups d'œil, etc., j'abandonne complètement et voilà, je laisse tomber. Mais en tout cas, oui, l'endroit lui-même était chambé pour tout ce que ça a pu créer. Il y a plein de gens qui sont venus rec, etc. Même des potos, enfin tu vois, des gens qui voulaient enregistrer pour leur projet des trucs. On a fait des sessions d'enregistrement là-bas. Il y a eu des projets enregistrés.
D'ailleurs, est-ce que, tu vois, il faut le dire, le premier projet de L'Homme Pâle, c'est enregistré chez toi, non?
Ouais, 20 mesures, le premier EP de L'Homme Pâle.
C'est pas rien.
C'est, voilà, c'est là-bas que c'est enregistré avant 22h, 6h du coup. Tout à fait, il y a ça. Il y a le EP de BPM qui est sorti, c'est enregistré là-bas. Après, autour du Valmob, il y a beaucoup de trucs qui ont été faits. L'Oscillo aussi, ouais, a enregistré son deuxième projet, Résurrection, là-bas. L'album de Dice, il est enregistré en partie là-bas aussi. Enfin, il y a beaucoup de morceaux enregistrés là-bas en tout cas. On a finalisé des projets là-bas, on a fait des trucs, tu vois. Il y a eu beaucoup de trucs enregistrés. Mais voilà, ça a été limité à un moment, et puis voilà, ça a mis fin. Enfin, on a mis fin au truc. On a dû mettre fin à cette coloc en 2013. Et donc, du coup, après, derrière, ça a été l'errance.
Mais après 22h, 6h, on t'en passe que toi, en fait, t'as enchaîné tout le temps. Il y a eu peu de moments de pause. Après 22h, 6h, t'as enchaîné avec All Camis.
Ouais, en parallèle.
Ouais, en même temps, tu faisais ça.
En parallèle, parce qu'en fait, All Camis, c'est sorti, le premier volume de All Camis, c'est sorti avant 22h, 6h.
Ouais.
Sorti en janvier 2012, un truc comme ça.
Du coup, All Camis, c'est le groupe que tu formais avec Skyle.
Avec Skyle, exactement. Et en fait, on était au niveau des prods, on travaillait avec Goumar et 12. Je travaillais beaucoup avec 12 à l'époque et j'avais rencontré Goumar aussi. 12 qui produit pas mal sur Petit Mort contre Ami et sur 22h, 6h. Ouais. Et en fait, le nom All Camis, c'est Skyle qui avait un groupe de rap avant qui s'appelait All Camis. Et en fait, son poteau avait arrêté, etc. Et en fait, nous, le feeling était bien passé à l'époque de Petit Meurtre, des sessions qu'on avait fait chez Tadé à Ozoa, etc. Et vas-y, genre en mode, on s'est dit, vas-y, on fait un projet ensemble, ça coule de source, quoi. Et il y avait déjà ce nom qui existait, et du coup, on a récupéré ça.
Jusqu'à maintenant, ton blast sur mon répertoire, c'est Walter Valmob All Camis.
À l'ancienne.
Du coup, vous avez fait deux projets avec Skyle. Vous avez fait All Camis 1 et All Camis 1.5.
Ouais, exactement.
En vrai, dans le casting, il y a encore des bêtes de noms. Hein. Il y a Giorgio, il y a Pandore, il y a Gaiden.
Sur le volume 1.
Non, mais en tout, je parle de les deux cumulés, tu vois.
Ouais, non, de ouf. Ouais, complètement.
Il y avait un clip avec Gaiden, vous l'avez clippé, je crois.
Ouais, c'est sur le volume 1. Ouais. Sur le volume 1, il y a Gaiden, Pandore, Giorgio. Sur le deuxième, il y a Fixpen.
Ça fait des heures qu'on a investi la planque. L'interdit l'attend, tout le rage et l'appétit. Un athéisme l'attend, grave pénible à prendre. Elle est pas terrible, talent, elle est pathétique. L'argent, il sait pas.
Il y a un morceau avec Alpha et Nekfeu.
Bah, le jour où Alpha et Nekfeu sont venus poser, j'étais à
Ouais,
c'était un moment où j'étais chez Watt.
T'étais là aussi quand il y avait Fixpen aussi.
Ouais, exactement, j'étais là. Ouais, chaud. Je me rappelle très bien de cette session là.
Ouais, c'était lourd. C'était lourd de ouf. On a pas mal de morceaux tous les deux, mais ouais, quelques feats quoi. Tous les gens qui gravitaient autour de nous. Ça fait deux projets, ouais, 2012 et 2014.
Ouais, 2014 c'est le dernier.
Ouais,
les deux projets sont dispo sur les plateformes de streaming, vous pouvez aller écouter ça.
Tout à fait, exactement.
Après ça, t'enchaînes. Tu formes un autre groupe avec Zonar, enfin avec Jeune Mort et Horus.
Ouais, ouais.
Ça s'appelle le Bohemian Club.
Bohemian Club et Goumar aussi. Qui est directement intégré au groupe en fait.
Ouais.
Et en fait, ça, Bohemian Club, ça se crée à l'époque de Petit Meurtre entre Amis, entre 2012 et 2013. On commence à traîner beaucoup ensemble tous les trois. Horus, lui, prépare son album qui est sorti, qui s'appelle L'Alpha et l'Omégal.
C'est la pochette avec une voiture là
dans
où il y a un son avec Daryl Zodja.
Tout à fait.
Je kiffe son.
Exactement. Ouais, non, mais c'est un très chaud projet. Et justement, il a commencé à enregistrer des morceaux chez moi à l'époque. Après, il a finalisé tout le projet chez Ramon dans un autre studio où on a bossé. Mais il travaille ce projet en parallèle parce que lui, pareil, il a besoin d'aboutir à un projet solo quoi depuis le temps qu'il rappe.
Mm.
Et en fait, avec Horus et Zo, en fait, on traîne pas mal ensemble. Pareil, tu vois, il y a la localité, tu vois. On a des connaissances en commun. Et du coup, le groupe se forme logiquement, en fait. Assez logiquement. On tripe un peu sur les bails complotistes, etc. Le mot Bohemian Club arrive très vite, très naturellement. Ouais, très, très rapidement. Donc au début, on fait des petits morceaux par-ci, par-là, on maquette, et puis... jusqu'à 2015 où on sort Bohemian Groove.
Avec 666 Amendement.
Qui est le premier extrait du projet. Le premier morceau du Bohemian, il est sur l'album L'Alpha et l'Omégal de Horus, c'est Arithmétique. C'est le premier morceau Bohemian Club.
Officiellement.
Officiellement, ouais. Et après, ouais, t'as le clip de 666e. Et l'album.
Ça, c'est un tournant en vrai.
Ouais.
Les murs ont des oreilles, le son est correct. Je prends des beaux textes confus. Dans un contexte peu juste, tous les putes sont décorés. On sue sur des promesses tenues. Mais vu les gros traits, c'est de la
rétro. Ouais, d'ouf. Y a
en fait, c'est une mise à jour sonore qui s'opère et qui est bien faite.
Ouais, bah en tout cas, on tripait quoi. On tripait bien.
C'est l'arrivée de la trappe, etc.
La prod, c'est Ideal Gym. Est très 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 chaude quoi. Et ce morceau il a plusieurs étapes hein, parce que il a été mixé plusieurs fois, il y a eu plein de trucs machin, mais en tout cas on arrive avec un clip à un moment et en fait on est saucé quoi, tu vois, on se dit vas-y faut sortir des morceaux etc. Et bon, après le projet il met un petit temps à arriver après derrière.
Ouais, après le projet vous l'avez droppé sur Haute Culture là.
À un moment ouais. Haute Culture, bah pareil ça c'est qu'entre vraiment jusqu'à 2017 tu vois quand on parlait des projets Olcami etc. qui maintenant tous ces projets là sont disponibles sur les plateformes. Avant, c'était du téléchargement gratuit, quoi. Tu vois, c'était Mediafire aussi.
Oui, Mediafire fort.
Mediafire, etc. Donc, il y a eu Bandcamp.
Ouais.
Bandcamp aussi qui est arrivé. Donc, Bohemian Groove, on l'a mis sur Bandcamp. Olcamise 1.5, je l'avais mis sur Bandcamp aussi. 22h-6h aussi. Mais c'était un peu, voilà. Bandcamp, c'est intéressant aussi comme système. Quand j'ai pas assez utilisé, d'ailleurs. Je pense que c'est un
truc. Ouais, j'ai encore l'application, gars, parce qu'il y a des projets qui sont disponibles que là-dessus.
Ouais.
Du coup, j'écoute, tu vois.
Même tu peux griser les trucs, tu mets un morceau en écoute, les gens, s'ils veulent acheter l'album, etc. En termes de commerce, en termes de business, c'est quand même assez intéressant, Bandcamp. C'est, en tout cas, pour les artistes indés, c'est quand même.
Même tu peux rajouter du merch et tout ça. Ouais, ouais. C'est participatif parce que tu peux mettre tu peux mettre le montant que tu veux pour aider l'artiste que tu soutiens, tu vois.
Ouais, moi, j'ai pas assez sciencé Bandcamp.
Et jamais trop tard.
Je me suis. Ouais. C'est clair. Mais tu vois, avant les plateformes, tu vois, les plateformes, c'est inévitable, tu vois, mais en vrai, Bandcamp, ouais, c'est très pro, quoi, ça peut être un bon média, quoi.
C'est bien carré.
Mm-mm.
Du coup, ouais, Bohemian Groove, après, par la suite, tu vas le mettre sur les plateformes de streaming, bien un peu plus tard.
Ouais.
Et je me rappelle que tu avais fait un move intéressant, c'est que tu avais rajouté 7 ou 8 sons par rapport à la version originale.
Ah oui, le Bohemian Groove.
Exactement.
Ouais. Alors ça, c'est une petite... C'est par rapport à quoi, c'est un délire un peu d'économie, quoi. C'est en gros, en fait, on a sorti Bohemian Groove, qui était un EP de 8 morceaux. Et en fait, entre Bohemian Groove et Substance M. Que tu vois, il y a 3-4 ans qui se passent.
Ah, vous avez sorti là les sons.
Et en fait, on sort pas mal de sons à l'époque.
Et beaucoup de clips.
Et beaucoup de clips, exactement.
Fait par quasiment tous Pierre Wynne.
Pierre Wynne, exactement. Ouais, ouais. 666e amendement, c'était Laurent. Mmh.
Laurent qui a fait plus tard le clip de 2014 à l'infini de Joke et qui est à Tayaba.
Ah ok, ça je savais même pas. Ah, je sais qu'il a beaucoup bossé avec plein de gens après.
Oui, 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 il a fait ça, chaud, il a fait un autre truc aussi, il a fait Trapphone, c'est lui aussi je crois. Si je dis pas de bêtises.
Ah, il a bossé avec Luigi, il a bossé avec pas mal de gens, ouais, bah non, il était très chaud. Et en tout cas, ouais, on sort pas mal de trucs, et au moment où, en fait, entre vers 2017, je commence à me dire, vas-y, je mets tout sur les plateformes, et ben en fait, il y a tous ces morceaux qui sont là, et je me dis, vas-y... je vais les incorporer à Bohemian Groove, quoi. En vrai, on va faire... même si le truc, il a... en termes de mix, il a aucune cohérence. Tu passes des 8 morceaux de Bohemian Groove à après plein de morceaux qui sont assez mixés différents, machin. Juste dans l'énergie.
De toute façon, il fallait tester.
Que le truc, il soit... voilà, ça, c'est un peu toute la palette de ce qu'on a pu faire dans tout. Ouais. Truc, plein de couplets ultra durs.
J'ai tout réécouté pour faire ce podcast.
Ouais. Ah ouais, t'es chaud, putain. T'es chaud.
Bah, mais moi, il y a des sons que je kiffe. Hein. Negaolix, je le trouve chaud.
C'est marrant.
Vous avez repris l'enfer d'Ayam où Sopico il fait un refrain.
Ouais, tout à fait.
Si, 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 c'est amendement version Ideal Gym. Ouais. Pour moi, c'est un classique du Bohemian.
Je te sens.
Et après, le reste, voilà. Tu vois, mais ouais, après, ouais. Dans les plus, les bonus, c'est Poucou. Je parlais très mal des rivaux. C'est raté, l'écart était large. C'est que les cartes étaient nasses et pétards dépriment trop. J'ai zappé, c'est nasse et clicos. Je suis blasé, je n'ai pas de répit. J'ai gratté des pages. C'est BM.
Ouais, ouais.
Tu vois, c'est chaud, ma gueule.
C'est différent.
Faut qu'on parle aussi de la 75e session. Mmh. Parce que je sais qu'à un moment donné, tu commences à aller là-bas. Notamment pour Bohemian Groove, vous avez enregistré quelques sons par là-bas.
Ouais.
Et je voulais savoir, bah, du coup, tu vois aussi, qu'est-ce que cette école, bah, ça t'a ramené, tu vois.
Bah, dans la continuité de la Wild Cave, etc., en fait, c'est que. En gros. Eux, il y a la maison donc à Saint-Denis en fait où ils commencent à mettre en place un studio et moi la première fois que j'y vais c'est pour le en tout cas pour poser c'est pour le freestyle La Folie des Glandeurs
Two Things
sur la tape La Folie des Glandeurs de Two Things donc pareil gros pussy cut
mais toi t'en as fait
tu
plein
vois, gros truc le dernier que j'ai fait d'ailleurs je crois en termes de pussy cut hein.
Non.
Bah...
non, après t'as fait sur avec Dimé.
Ah oui, c'est vrai.
Le rap et la vraie vie.
Très chaud, t'es chaud, t'es ouf, t'es chaud. Faux serre et gros serré, pauvre merde. C'est quoi ces gros blaires t'obsédés? Faut t'observe le beau geste, offrir des problèmes, s'opère, fais voir. Les toits, les mauvais. En tout cas, je suis invité à ce truc-là. Et donc, c'est la première un peu prise de contact un peu du studio, même si j'étais déjà passé pour un clip. C'est l'homme pâle, il avait clippé un son avec les séistes et Vigi à ce soir-là.
Ouais, il y avait Jean Jass aussi dedans, le clip-là.
Il y a moyen. Ouais.
Si, il a un bête de couplet.
Ouais, ouais, ça,
ouais, c'est un plan séquence qui fait toute la maison et
ouais,
tout.
Ouais, ça.
C'était sur quoi? Cette foutue perle.
Cette foutue perle, exactement. Et donc, je sais que j'étais là. J'étais venu nous deux fois là-bas, tu vois, mais je commence à rencontrer les gars. Moi, une des premières rencontres des gens de la 75e session, c'est par rapport à John Doe.
Les freestyles.
Ouais, carrément. Ils étaient venus à la Wild Cave, justement.
Ah ouais.
Bah, en fait, c'est à l'époque de 22h-6h, en fait, avec Antoine, tu vois, avec l'homme pâle, on invitait pas mal de gens qui gravitaient autour de tout ce microcosme parisien aussi, tu vois. Et donc, la 75e, c'était Antonin et Lucas qui étaient venus et qui cherchaient des rappeurs pour John Doe. Et en fait, ils ont enregistré celui d'Antoine, ils ont enregistré. Moi, j'en ai enregistré un ce soir, là-bas, mais je l'ai dû le refaire plus tard. J'en ai refait, en fait, en vrai. Et donc, toutes ces connexions se font. Après, je rencontre Sheldon. Il y avait les concerts à Petit Bain aussi, tu vois, à notre tour, etc.
Exactement.
Tu vois, quand on y bossait pas mal déjà avec la scène de Belgique, de Bruxelles, tu vois. Et assez simplement, en fait, je me retrouve à fréquenter ce stud et les gens qui ont monté le projet. Et je rencontre des mecs comme, enfin des artistes comme Limsa, Sopico,
Sanka,
Vesti. Ouais, Sanka, il faisait pas mal de morceaux avec Sheldon. Moi, je fais un morceau, justement, un des premiers morceaux que j'enregistre là-bas, c'est Thèse d'Avril avec Sheldon et Sanka.
Ok.
Ils sont une prod de 12, justement. Je commence voilà, à fréquenter les gars, à venir régulièrement là-bas. Eux, ils développent, leur studio, ils changent un peu, ils mutent au fur et à mesure des travaux, etc. Et en fait, on se retrouve en fait tout un tout un collectif de rappeurs, enfin plein de rappeurs qui gravitent autour, tu vois. Moi, voilà, j'étais avec Horus et Zo pas mal à l'époque, donc nous, on squatte un peu là-bas aussi. Donc, si tu dis, il y avait Zo, il y avait Vesti.
C'est là que naît le Dojo Clan.
Et Dojo Clan naît dans cette époque-là, donc entre 2014 et 2016, entre 2013 et 2016.
Vous avez fait quelques concerts ensemble, en vrai.
Voilà, ça, en fait, voilà, ça, c'est, le Dojo Clan, ça a été une expérience, déjà, pareil, dans la continuité de la... un peu de l'enrichissement que tu as fréquenté des rappeurs, te confronter un peu à d'autres gars, d'autres influences, etc. Ça a été très riche en termes d'évolution, tu vois, en termes d'expérience studio aussi. Mmh. Effectivement, on a fait quelques concerts en tant que Dojo Clan autour de 2016. Et donc, du coup, ça a été ouais, une expérience ouais, de... entre guillemets de professionnalisation, en tout cas de voilà de poursuivre la route et
ouais,
de
ouais.
Tu vois, de voir que t'es dans un microcosme où il y a énormément de gens,
ouais.
Parce que le dojo après s'est mis à être un studio pour d'autres rappeurs aussi, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui venaient, c'était un studio d'enregistrement et de mix, quoi. Mmh. Donc l'ingé son principal étant Sheldon, tu vois, le daron de tout ça, quoi. En tout cas, le meneur de toute la DA ou tout l'aboutissement des morceaux, etc., c'était grâce à Sheldon, tu vois, en termes d'impact. Et donc, du coup, il y a beaucoup de rappeurs aussi du coin, enfin de la région parisienne, etc., qui venaient enregistrer là-bas, etc. Ça,
voilà. Et c'est un autre lieu culturel important de l'histoire du rap.
Ouais.
Aussi.
Ouais, de ouf. Clairement.
Tout le monde est passé là-bas.
Plein de gens sont venus et voilà, moi, j'ai eu la chance de faire partie du collectif Dojo Clan en tant que tel.
Ouais.
Il y avait M le Maudit, Inspire, tu vois.
Le seul regret, c'est que vous n'ayez pas sorti l'album ou une mixtape, parce que j'ai le souvenir des 2-3 cyphers que vous aviez fait, des sons. C'était chaud. Même je me rappelle qu'une fois par semaine, vous avez comme une sorte de rendez-vous et vous deviez tout le temps venir, tu vois, pour faire des trucs.
Il y a eu des sessions comme ça, ouais, un peu genre.
Même il y a eu un clip avec Zonar et Sopico que jamais sorti, le son était trop chaud.
Ouais, il y avait ça, il y avait ce morceau avec Sheldon, Sopico et Zo.
Ouais, mais moi, c'est les cyphers qui m'avaient trop mat.
Ouais, alors moi, les cyphers, il se trouve qu'il y a un cypher qu'on aurait dû sortir. Et pour le coup, je pense que c'est bien qu'on l'ait pas sorti. Parce que moi, en tout cas, pour moi, personnellement, mon couplet, il est éclaté au sol.
Donc ça t'arrange.
Ça m'arrange de ouf. Et c'était un peu bordel. Après, vas-y, tu connais hein, le public qui demande autre chose. Donc ouais. Pour plein d'autres artistes du collectif, ça aurait été bien que ce freestyle y sorte. Mm. En tout cas, pour marquer une époque. Mais moi, ça m'arrange. Mais on a fait d'autres sons, etc. En fait, on n'a pas fait énormément de morceaux pour le Dojo Clan, en vrai, même si chacun avait un peu son... Chacun avait son évolution, tu vois, artistique. On était focus avec le Bohemian, Sopico, il était focus, Limsa, il faisait ses trucs, Sheldon, il était focus sur ses trucs. Il y a eu plein d'expérimentations, plein de trucs, ce qui fait qu'un projet Dojo Clan, c'était pas le...
La priorité.
C'était pas l'envie de tout le monde en vrai, et c'était pas la priorité. Et les moyens mis en place pour faire un album Dojo Clan n'ont peut-être pas été mis aussi assez en valeur. En tout cas, pour que cet album se fasse, il y avait tout un tas de paramètres qui n'étaient pas rassemblés. Et du coup, ça s'est pas fait. Mais il y a énormément de choses qui sont faites en parallèle, quoi. Donc, moi, je reste assez. J'ai pas de regrets par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu plus. C'est un peu c'est dommage qu'on n'ait pas fait ce projet, etc. Moi, je pense que
l'histoire est ainsi faite.
T'as vu, tu retiens les noms du dojo. Le dojo aujourd'hui, il y a encore des gens qui parlent de ça, et on n'a même pas eu besoin de faire un projet pour que ce soit marquant.
Donc, alors, imagine si le projet était sorti.
Voilà, donc on
le sait tous.
Je suis très vulgaire.
Oh, rigole. Après, du coup, toi, après beaucoup de projets en commun, enfin projets en groupe, collectif, etc. Vient le premier EP solo en 2018.
Ouais. Toc. TOC, ouais. Ouais. Bah, tu vois, pareil, comme je disais, par rapport aux priorités, par rapport à tout ça, moi, à l'époque, en fait, j'avais, depuis 8e passager, j'avais fait très, très peu de morceaux solo.
Hein?
Et j'existais à travers les collectifs et à travers les groupes.
Après, t'as quand même distillé. Enfin, mis des petits sons solos à gauche à droite sur YouTube et tout. Il y avait des Wild Talks qui sortaient, tout comme ça. Mais ouais, c'est vrai que très peu. Par rapport à tout ce que tu sortais en featuring.
Ouais, il y a eu Fly Talks que j'ai sorti en 2016 ou 2015, un truc comme ça. Mais
ouais, c'est ça le titre.
Fly Talks, ouais. Voilà. Mais tu vois, en termes de morceaux solo, il y avait quasiment rien.
Ouais.
Et en fait, je me retrouvais dans une position où où j'étais un artiste qui faisait partie de groupe, mais comme si j'arrivais pas à affirmer ma personnalité ou à avoir un truc un peu particulier ou à, tu vois, à être plus mature sur comment faire des morceaux, en fait. J'arrivais, je faisais un couplet et hop, c'est bon. Des fois, je ratais un refrain, mais en termes de vision, j'étais très limité en vrai, en termes de créa, tu vois. Et donc, j'avais besoin de finaliser un projet, mais avec toute l'expérience de rap que j'avais accumulée ces dernières années, toute l'expérience. Et du coup, j'ai réussi à sortir un projet en 2018, grâce à Nigel et à Sheldon, qui ont été les deux personnes qui m'ont aidé à réaliser ce projet, ainsi que bon, tous les beatmakers avec qui j'ai travaillé, des mecs comme Rooster, Sheldon aussi, produit, Yagoumar, mon petit ref aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Decide.
Il y avait un de tes collègues aussi qui avait fait
Parisis, morceau Bamiyan, tout ça, il y a des trucs. Et donc, grâce à Nigel et Sheldon, ouais, je finalise ce EP et je le sors en 2018.
Et qu'est-ce que tu retiens de cette première aventure, enfin cette deuxième aventure solo au final?
Ça, en tout cas, ça me donne envie de continuer la partie solo. Ça me débloque un petit truc et je me dis de toute façon c'est une constante évolution. Il faut toujours faire mieux au prochain projet. Donc je suis content d'avoir mis en place des concepts sans trop me prendre la tête à l'inspi et sans. En tout cas, aboutir à ce truc-là avec quelques feats, mais en même temps essentiellement des morceaux solo, et à me dire, voilà, je développe ma personnalité et ce que je veux affirmer. Et donc, je suis assez content d'avoir finalisé ce truc, quoi. Ça a été ultra important pour mon évolution, quoi.
Ok. Et dans la même période ou juste avant, t'es invité à participer à un son, c'est un monument du rap français. Hein. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire, c'est Overdub. Raconte-moi cette histoire, s'il te plaît.
Overdub, c'est si les gens connaissent ce morceau, c'est
les gens connaissent.
Ouais. Ceux qui ne connaîtraient pas, c'est sur 444 nuits, donc le projet de Népal, et c'est un morceau avec Fix Pencil, et en gros, ouais, donc, ça, ce morceau, pour moi, il est important dans la libération en termes de voix. C'est-à-dire que pendant longtemps je cherche ma voix, je cherche un peu l'interprétation que je peux avoir, et je capte à l'époque de la Wildcave, tu sais, des fois je m'enregistre je mets le volume super fort et genre je travaille vachement ma voix grave, un peu je suis en mode sans mettre trop d'énergie machin, sauf que au bout d'un moment je développe un truc un peu timide où j'ai du mal à gueuler ou à pousser ma voix, tu vois, je suis dans un truc un peu de très timide et sur Overdub, en fait...
Lâcher prise.
Mon couplet est très low, il est très bas, il est posé, tu vois, il y a vraiment une descente de pression au moment où mon couplet arrive, c'est très bas, etc. Machin. J'aurais peut-être un peu mieux pu le poser, mais...
Il m'en va, voilà qu'ils font d'en face. Celle-là, c'est pour tous ceux qui restent. Il y a comme un malentendu. Tu vois la malchance en russe. Pendant que tu te la montres...
Sur les refrains... Là, on me pousse à gueuler, tu vois. Et là, je commence un peu à lâcher un peu, tu vois. Et ça a été un moment...
Un déclic,
un truc un peu décomplexé de... Vas-y, derrière le micro, vas-y...
Chose que tu referas plus tard avec Bohemian.
Après, sur Substance M, du coup.
Géant.
En fait, Substance M, voilà, il y a beaucoup de morceaux où je commence à rentrer plus d'énergie, etc.
C'est tout le rock que t'as entendu, petit, voilà. C'est revenu.
C'est revenu d'un coup, tu vois. Je l'avais occulté, je l'avais mis de côté, et c'est revenu. Mais avant, tu vois, le Bohemian Groove, ou les trucs Alchemist, machin, je suis globalement un truc un peu plus low, tu vois. Et là, à ce moment-là, Overdub me dit, vas-y, il y a un truc de pression. Après, il y a les expériences sur scène. On joue le morceau à la Bellevilloise.
C'est ça.
On joue le morceau à la Maroquinerie.
Deux fois à la Maroquinerie, la machine du Moulin Rouge. J'ai assisté, moi, je crois, à tous les shows.
Toutes les représentations,
ouais. Le concert le plus légendaire, c'est les deux Maroquinerie.
Ah, c'était lourd.
C'était une dinguerie. Je crois que j'ai des vidéos que je t'avais envoyées.
Ah, je me rappelle pas de ces vidéos.
Il y a moyen que ce soit encore sur ta boîte mail. Si tu retrouves là-dessus, enfin, si tu retrouves ça, ça serait génial. Mmh. Donc, ouais, ce morceau sur scène, il prenait une autre dimension carrément. Il y avait vraiment un truc rock, turn up. Et vas-y, les gens, ils n'en pouvaient plus. Ça faisait, comment on appelle ça, Robin? Des mob chips, là?
Des mosh pits.
Ouais, voilà.
Pogo sur pogo.
Ouais, exactement.
C'est ça.
Non, mais ce son-là, il est fait pour réveiller le public, en fait.
Ouais, c'est ça, c'était.
C'est.
T'as vu, c'est un. En tout cas, pour moi, c'est un morceau ultra important, et même dans l'époque où c'est sorti. Et ça fait partie des morceaux où je me suis dit, ça, c'est fait. Et vas-y, c'est fait. Genre,
il y aura un après.
Ouais, tu vois, je peux être tranquille sur ma carrière, tu vois. Genre, je vais pas te dire, ça y est, ma carrière s'arrête là, tu vois. Mais tu vois, c'est fait. Pour moi, c'est un projet ultra important.
De fou.
Tu vois, j'étais honoré d'être sur le projet. C'est Clément qui m'avait invité aussi, donc Népal, tu vois, qui m'avait invité sur le freestyle La Folie des Glandeurs. C'était une invitation de sa part. Là, sur Overdub, je me suis retrouvé à une session d'écriture avec lui et Fixpen. Et vas-y, je me suis greffé au truc.
Ah, etc. Vous l'avez écrit du coup au dojo?
Non, ça c'était à Montreuil. On avait écrit ça à Montreuil une après-midi qu'on avait passé ensemble avec Keroué, Vigi et Clément. Et vas-y, ils ont fait la prod, ils ont commencé à gratter le refrain, etc. Moi, j'ai commencé à gratter mon couplet et on s'est retrouvés au studio une semaine après pour enregistrer le morceau. Mais pour moi, c'est très important. En tout cas, ça fait partie des projets fondamentaux et dont je suis particulièrement fier d'avoir pu participer et d'avoir pu être là. Quoi. C'est très important. Quoi.
De toute façon, toi, tu as participé à énormément de projets et d'albums. Tu as fait énormément de feats. Comme je lui disais tout à l'heure, t'es presque autant présent que Jules en feat. Non, mais tout propos portion gardée. Non, mais en vrai, gros, ton run, c'est n'importe quoi.
Ouais, mais il y a une théorie qui dit il y a deux types de rappeurs. Il y a les rappeurs qui feat pas assez et les rappeurs qui feat trop. Et moi, je me suis retrouvé dans la catégorie des rappeurs qui feat trop.
Après, t'as fait ton projet solo.
Voilà.
Voilà. Et après, en plus, après ça, t'as enchaîné encore. Parce que toi, tu t'arrêtes jamais, en fait. Mmh. Après, t'as fait un EP avec Rooster.
Ouais, carrément.
Qui s'appelle quoi? C'est Rue.
Point Rue. En fait, on a fait Oasis et Point Rue. Oasis, voilà. C'est un 3 titres et Point Rue, c'est un 9 titres.
Ouais. Exactement. Ouais, t'as fait ça. Après, en parallèle encore, tu faisais des projets avec le Bohemian.
Ouais.
Donc, à quel moment tu t'arrêtes,
Magali? Il y a beaucoup plus.
Tu vis pour ça. Le mec vit pour ça, tu vois.
Ouais, et encore, je suis très lent dans l'écriture.
Heureusement pour eux.
De ouf, de ouf. Non, mais je sens que, tu vois, voilà, je prends mon temps, etc. Puis surtout, je suis dans un développement très indé. Donc en fait, y a plein de paramètres que je gère de moi-même, de mon côté. Et je découvre des choses encore. Y a plein de choses sur lesquelles je me casse la gueule, je me relève, etc. Mais je suis dans un mécanisme où, t'as vu, j'ai encore bossé. J'ai jamais bossé avec la moindre distrible. J'ai fait partie du Dojo Clan et donc je suis affilié aussi à la 75e session. Mais j'ai pas de contrat nulle part, tu vois. Je suis ultra libre.
Ça, c'était un besoin, une nécessité ou c'est venu comme ça?
De pas avoir de deal avec des
Pourquoi
gens.
Pourquoi? Ouais.
Parce que déjà, personne n'est venu me voir. J'intéresse personne.
Malgré tout le passif, là.
Frérot, moi, je suis un peu, on va dire, je vais pas voir les gens non plus trop. J'ai peut-être ce truc de manque d'aller chercher le contact pour ça. En tout cas, peut-être que je fais pas les bonnes rencontres ou que je me donne pas assez les moyens pour aller contacter les gens et que je me retiens trop. Mais jusque-là, depuis le début que je fais du rap, tous les artistes que j'ai pu rencontrer ou tous les gens qui ont pu graviter autour des artistes, etc., y a personne qui m'a proposé la moindre chose.
Et ouais, c'est bien la honte à eux.
C'est... t'as vu, les quelques fois où je suis allé voir des distribs, à une certaine époque, on m'a toujours fermé la porte. Mais tu vois, genre, c'est dans une certaine époque. Aujourd'hui, ça serait peut-être différent selon les distribs que j'irais voir. Mais en vrai, pour le moment, moi, c'est un mélange des deux, quoi. C'est moi qui ne tente pas assez ma chance, comme des gens que j'intéresse pas, quoi. Ma musique, elle est peut-être qu'elle n'intéresse pas assez, tu vois, certains trucs. Ouais. Après, je te dis, là je travaille des trucs. Je vais pas non plus. Peut-être à tout le délire. Plein de choses qui sont un peu démocratisées, tu vois. Là, tu peux démarcher des relais presse, des trucs comme ça, etc. Tu payes des gens, des campagnes de promo, etc. Vas-y, tu développes. Enfin, tu vois, je peux développer ma musique aussi par ces biais-là, quoi, tu vois. Plutôt que d'aller chercher un distrib. Mais en vrai, ouais, pour le moment, j'ai pas eu de proposition de contrat ou du moindre truc, quoi.
Mais est-ce vraiment nécessaire?
Bah. Ouais, quand même. Enfin, moi, je crache pas dessus, en tout cas. Je dis pas que c'est pas nécessaire. Je suis très, enfin, je suis assez content de ma ligne directrice et de mon parcours, de toutes les étapes que j'ai franchies et comment j'ai pu les faire. Tu vois, expressionnisme allemand, mon premier album, donc j'ai pu le faire presser en vinyle, en CD. J'ai sorti des clips.
Il vient de me ramener le CD carrément.
Il y a le CD qui est derrière là. Et tu vois, en gros. Je fais, voilà, j'investis, j'ai peu de retour, mais tu vois, ça m'empêche pas de continuer.
Parce que t'es un vrai passionné.
Ouais, parce que j'aime ça, tu vois. J'aime complètement ça. Et c'est pas parce que ça, ça, ça rend, c'est pas rentabilisé ou que ça cartonne pas, que tu vois, je vais m'arrêter. De toute façon, il y en a jamais assez, tu vois. Même les gens qui réussissent ou qui cartonnent, machin, il y en a jamais assez pour eux, tu vois. Il faut toujours plus, tu vois. Donc, à partir du moment où t'es heureux de faire quelque chose, que tu t'es bien avec tes gars, tu vois, que tu dessines un parcours, que tu fais des trucs, que t'as le sentiment d'évoluer, bah moi j'ai envie de dire aux gens, lâchez pas l'affaire, tu vois. Genre, vous fixez pas un truc, enfin vraiment faites ce que vous voulez après, mais t'as vu, j'ai rencontré des gens blasés parce que ça marchait pas et qui voulaient arrêter la musique, qui se disent ça sert à rien.
Beaucoup des grilles dans ce milieu.
Tu vois, c'est clair que si tu te fixes des trucs en mode, tu vas, frérot, pour gagner sa vie dans la musique, frérot, c'est un délire. Hein. C'est, tu vois, c'est,
faut s'accrocher.
Même dans l'art en général, tu vois, c'est, faut bien s'accrocher et faut être présent, quoi. Mais, et assez productif. Mais. Et pas se faire enculer sur les contrats. Parce que t'as vu, t'as des artistes, t'as l'impression qu'ils brillent. Mmh. Ils te donnent l'impression qu'ils brillent dans ce qu'ils racontent, mais ils gagnent rien, tu vois.
Contre leur artiste, 8%.
Voilà, voilà, tu vois, t'as capté, voilà, tu vois, t'as, c'est bien résumé, tu vois, c'est ça. C'est, donc voilà, et puis même un artiste, il va briller un album, deux albums, et derrière, il va disparaître, tu vois, c'est. Tu vois, c'est important de chercher le bonheur et de chercher l'équilibre, tu vois, ce que tu veux faire. Voilà, il y a des ratés, il y a des choses, mais il faut essayer de rebondir derrière, quoi, tu vois.
C'est le parcours. Mmh. Mais toi, comment tu fais pour... parce que ça fait 15 ans que tu fais ça, 15 ans que tu sors des projets, comment tu fais pour garder et alimenter ta passion pour cet art? Comment tu fais pour pas arrêter, en fait?
Bah parce que j'ai peut-être le sentiment que j'ai pas encore... bah en gros, que j'ai besoin de faire des projets mieux. Mmh. Tu vois, il y a ce truc de... Comme je vous disais, j'étais en mode... j'existais à travers les collectifs, un peu les groupes. Et en fait, début 2010, même tu vois, le fait que j'ai sorti 8e passage avant, j'ai toujours eu ce besoin de sortir des morceaux pour en sortir d'autres. Et du coup, à une époque, j'ai sorti des morceaux que j'aurais peut-être pas dû sortir parce qu'ils n'étaient pas finalisés ou pas bons. Mais j'ai sorti parce que je voulais sortir et avoir une actualité et sortir. Et moi, ça m'angoissait les gens qui étaient ultra exigeants, mais qui sortaient rien. Ils faisaient genre, c'est comme ça qu'il faut faire, etc.
Ah, mais ça, c'est méga relou.
Mais les morceaux, ils sortent pas. Mm. Du coup, moi, à un moment, j'ai eu besoin de dire, vas-y, je fais des trucs, je les sors. Et moi, après, ça m'a amené aussi à un recul sur comment je fais de la musique, etc. Du coup, j'ai eu besoin à un moment de me dire, vas-y, il faut vraiment que je fasse des projets, que je monte le niveau pour un peu faire oublier les trucs de merde que j'ai sortis avant. Tu vois, ça aussi, c'est un moteur un peu de création, c'est de se dire, ce que t'as sorti avant, c'est pas terrible, c'est mauvais. Il faut que tu fasses mieux, tu vois. Ça fait partie des mécanismes que j'ai, quoi, pour du fait de mon envie de continuer, quoi. Parce que j'ai l'impression que je serai plus fort au fur et à mesure. Il y a des trucs, je sais, il y a des morceaux dans une certaine époque, des trucs dont je suis plutôt content. Mais
comme
j'aime bien Substance M, tu vois, même s'il y a des couplets à moi que je trouve peut-être un peu plus léger, mais techniquement, on va dire, et en termes d'ambiance et de prod, etc., Substance M, pour moi, c'est un des meilleurs projets sur lesquels j'ai pu travailler, quoi.
Je suis assez d'accord.
Dans l'énergie globale, je trouve qu'on a atteint un petit truc sympa.
Géant, non à la D.
Ouais, tu vois.
Tous les jours. Toujours défoncé comme un SDF.
Voilà, ça, c'est trop. Il y a refrain et toxique, tu vois.
Toxique, quel morceau, une fois de plus, avec Népal.
Ouais, avec Népal, refrain, très gros refrain de.
Beau clip aussi de Pierre Rouin.
Pierre Rouin. Et très gros refrain de Jeune Mort. Non mais moi j'allais, je suis toxique. Je finirai sûrement sur les pauvres. Je me suis fait
valider, mon cœur est mort. Je roule un petit zart en l'air du premier trou. Jeune Mort en mode Bones.
Yeah.
Ça chantonne, tout ça, c'est terrible. Non, terrible.
C'est terrible. Et ouais, tu vois, voilà, on s'améliore. Voilà.
Exactement. Du coup, toi, tu cours toujours derrière ton projet ultime, en vrai. C'est ce qui te maintient.
On peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas.
Parce que pour moi, tu l'as pas encore atteint le projet No Skip. Même son premier album Expressionnisme Allemand.
Ouais.
Pour moi, c'est pas encore le meilleur projet qui est sorti. Et ça, c'est
ouais.
Beau, ça.
Ouais, en vrai, t'as raison. Moi, j'entends grave ce que tu dis. Je suis grave d'accord avec toi. C'est clair que, tu vois, moi, je suis arrivé. Le fait de sortir cet album-là, c'est que moi, je suis vachement concerné par les époques et par les étapes qu'il faut passer. Et à un moment, en fait, tu vois, c'était important pour moi de dire ça, c'est un premier album. Tu vois, c'est pas une mixtape,
oui.
C'est pas un EP, etc. Il y a 11 titres, c'est assez court, mais en termes de construction et en termes d'époque où j'ai réalisé ça.
Parce qu'un album, pour toi, ça compte.
Ouais, c'est ça, c'est un marqueur, tu vois. Tu fais un album, moi j'ai fait des projets, ouais, des EP, des ouais, beaucoup de EP, des ce que j'appellerais des compiles, entre guillemets, Petit Meurtre et 22h-6h, c'est des projets collaboratifs, tu vois. Après, t'as tout le délire binôme avec Olcamis, tu vois. Mais ouais, j'avais pas fait d'album, quoi. Tu vois. Et c'est moi qui ai drivé toute la réa du truc, tu vois. C'est un album que j'ai.
Moi, mon son préféré, c'est le numéro 6.
Ok.
Pour moi, c'est mon son préféré.
Très chaud.
Tu fais d'amour et de mépris, je me pète le front, mais c'est bon, je te laisse le fond. Je suis resté dans mon plumard tout l'après.
Et pour la petite anecdote. Bah, du coup, là, tu viens de m'offrir le CD, alors que c'est moi qui fais la pochette.
Et bah, frérot, voilà, exactement.
il m'a dit offert le vinyle, mais là, il est venu, il m'a rapporté le CD. Le
oui, c'est toi qui as fait la pochette, frérot. Ouais. Tu vois, on travaille en famille, tu exactement. Vois, c'est toi la pochette, frérot.
C'est ça qui est beau, c'est qu'au bout, ça fait quasiment, je sais plus, moi, combien de temps on se connaît, 10, 15, 10 voilà, ans
là, ça fait 13 ans.
13 ans
14 piges, 14.
Voilà, et ben, tu vois, là, une première boucle se boucle et il y en aura d'autres encore après.
Ouais, de ouf.
Que, tu vois, enfin, je veux dire un truc, c'est que 2024. Là, c'est là, je pense, tu vas me dire, tu me dis si tu dis de la merde, mais c'est la première fois que ta vie, tu vas vivre de ta musique.
Alors, potentiellement, en tout cas.
Tu peux toucher du bois, mais en vrai, de vrai.
Je touche du bois.
Tu vas être intermittent.
Je touche du bois. Je vise, c'est la première année où j'ai des projets qui peuvent me permettre à prétendre à l'intermittence. Ça, c'est vrai. C'est la première année où, en tout cas, j'ai ces opportunités-là. Donc après, on va voir comment
c'est une belle réussite, c'est une forme de réussite, ça.
Ah, c'est un aboutissement. Tu vois, moi, je suis un peu dans le truc de j'aime bien prendre mon temps et que les choses se décantent au fur et à mesure. Et je me suis toujours méfié un peu des. Bah, je peux pas dire des succès, mais tu vois, des gens, ils sont chauds, patates à la vingtaine et à la trentaine, il n'y a plus personne, quoi.
Du coup, tu penses que. Est-ce que tu penses qu'il y a une date de péremption pour les rap, enfin, pour le rappeur?
Pour moi, il n'y a pas de date.
Merci.
Il n'y a pas de date. Et encore plus par rapport au fait que c'est une musique encore. Enfin, les rappeurs, en fait, on a grandi avec des rappeurs qui avaient un certain âge. Et on voit au fur et à mesure des époques les rappeurs qui tiennent le pavé ou qui tiennent la distance sur le long terme. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont la cinquantaine qui sont des bons rappeurs. En tout cas, d'un point de vue mainstream, enfin, en termes de grand public, enfin, de rappeurs connus, tu vois ce que je veux dire. Des mecs qui ont réussi à franchir le temps et à s'adapter à toutes les époques. Il n'y en a pas beaucoup. En rap américain, c'est déjà fait, quoi, tu vois.
De toute façon, ça date plus là-bas. Voilà, c'est normal.
Les mecs sont déjà plus adaptés à différents types de prod, etc. En France, on est sur un truc où les rappeurs de la première génération, soit ils ont arrêté, soit ils sont éclatés. Le seul rappeur, un des seuls rappeurs de la première génération qui tient encore la distance, c'est Akhenaton.
Merci!
Bah, justement, je voulais rebondir sur ça. En fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, les rappeurs de la quarantaine, cinquantaine, ils perdurent dans le temps parce qu'ils foquent avec les jeunes artistes. Ouais. Alors qu'en France, pas trop. Et par exemple, Akhenaton, lui, il fait ça très bien. Le projet qu'il a fait avec.
Vust,
par exemple.
Il est quand même plus jeune que lui.
Il est plus jeune, ouais, c'est ça. Rimka qui fréquente beaucoup d'artistes plus jeunes.
Ouais.
Ben, du coup, il traverse bien les générations. Quoi.
Ah ouais.
Et je pense que le but, c'est ça, c'est de fréquenter des artistes plus jeunes quand on est plus vieux pour pouvoir garder le truc et transmettre la passion, tu vois.
Complètement, ouais. Non, mais ça. En fait, on a énormément besoin des artistes plus jeunes. C'est ultra important. Et tu vois, moi, par exemple. Autour de 2010, quand je traîne, quand je suis un artiste essentiellement Valmob, où je travaille avec des gens du Valmob, etc., je suis le petit jeune du groupe. Et du coup, j'ai affaire à des gens plus âgés. Et du coup, moi, je suis un peu dans la position de j'apprends leur truc. Et en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens de ma génération, voire plus jeunes. Et ce contact avec eux, il a été ultra important pour moi de retrouver des gens de ma génération. Et limite, ils m'ont appris plus de trucs à des moments précis que certaines personnes plus âgées. Tu peux pas être toujours dans une posture les grands ils ont raison machin. C'est les personnes qui ont on a 10-20 ans d'écart, ils ont ultra besoin des plus jeunes qui ont beaucoup à leur apprendre. On a beaucoup à apprendre des plus jeunes et c'est très important pour l'évolution.
Ok. Attends, avant de finir, tu vois, parce que tout à l'heure on a parlé des psychotes et tout ça là. T'es aussi sur le singe fume sa cigarette.
Ouais, c'est vrai.
Encore une fois, un projet important de ce rap gaulois.
Bah ouais, L'Homme Pâle et Kaba, un album ouais très important. Kaba, ça a été c'est un artiste très important dans le rap francophone et dans la scène l'émancipation, on va dire, du rap bruxellois, même si tu vois je vulgarise un peu dans l'expression. Mais c'est certain que Kaba, c'est un rappeur qui a été ultra important et qui en a giflé plus d'un.
Exactement.
De Bruxelles à Paris, jusqu'à Marseille. C'est un rappeur ultra important, ultra chaud.
C'est un danger.
C'est un danger public. Et du coup, Antoine, enfin l'homme pâle, tu vois, il était chaud aussi à l'époque. Il était en mode, tu vois, il était ultra dynamique et ultra vif. Et leur collab est arrivé assez naturellement. Ils ont fait ça avec Hologramme Low.
Exactement. Et Louis Don Dada.
Don Dada, gros big up Don Dada. Et en vrai, ouais, je kiffe ce projet. C'est une belle couleur, tu vois, en tout cas dans l'époque, quoi. C'est un bon souvenir. Et il y a ce Pussy Cut, ouais, de ouf.
Ouais, oui, t'en as participé à beaucoup, beaucoup.
C'est vrai. Et tout à l'heure, tu sais, on disait que j'avais pas fait beaucoup de CD.
Ouais.
Mais en fait, là, je viens de repenser à l'album des Nouveaux Mutants.
Ah oui!
Anubis Please.
Ouais.
J'ai parlé de cet album vite fait, comme ça, à placer un big up aux Nouveaux Mutants. À l'MD, Moax, d'Iceberg et Pirate Netro. Je voulais leur placer un gros big up. Parce que voilà, pareil, ça, c'est un des. Sorti en 2016, l'album. 2016. Et ça, c'était des morceaux qu'on avait réalisés. Enfin, pour certains, la plupart des morceaux réalisés à la Wild Cave.
Oui, c'est sorti bien plus tard, les
sorti 4-5 ans après, ouais, ouais. Notamment. Avec des prods de Kyo Itachi, des prods.
Ah, bah oui.
Il y a quelques prods, etc. Mais. Mais voilà, il y avait ça cet album-là, qui passait inaperçu totalement, mais qui est sorti en bac, etc. Où j'ai 4-5 couplets dessus.
Bah, tu vois, t'as parlé de Kyo Itachi. C'est toi qui m'as parlé de Kyo Itachi la première fois.
Ok.
Avant même qu'il fasse le maxi avec Alpha, mon job, tu me parlais déjà de lui.
Ouais, carrément. Bah, moi, je l'avais découvert avec son projet, c'était Music Kyo. Je crois que ça réunissait des maxis qu'il avait sortis, ou alors c'était déjà un album qu'il avait mis en place avec des rappeurs américains. Et je m'étais pris de ouf, Music Kyo.
Ouais, très très fort.
Ouais, ouais.
Lui et Kyo, il a produit pour Conway the Machine, Sean Price.
Pour plein de carry, ouais.
Là, et,
ouais.
La dernière, et là, il vient de sortir le projet en commun avec Danny Dan.
Ouais, carrément, sorti là. Mais ouais, non, c'est quelqu'un.
Ok, du coup, est-ce que t'as un mot à rajouter ou t'es bon?
Ouais, le Valmob, c'est Noisiel, ah. Logne, Torcy, Champs-sur-Marne, Emerinville, Croissy-Beaubourg. Voilà.
Valmob,
oui. Gros big up à Emerinville et Croissy-Beaubourg, mais je ne mets jamais les pieds chez vous, à part à la piscine de Emerinville quand j'étais enfant. Mais alors, sinon, c'est des spots que j'ai très très peu squattés, donc pour moi, dans mon cerveau, ce n'est pas automatique. Mais voilà, je voulais rétablir une vérité. Scientifique et géographique.
Ok, bah, moi je suis très content d'avoir eu avec nous aujourd'hui.
C'est un sacré privilège.
Bah écoutez les gars, pareil, privilège en tout cas et plaisir partagé, c'est un plaisir d'échanger sur tout ça. Je pense qu'on a encore plein de choses à raconter ensemble, mm-hmm. et qu'on a sûrement peut-être pas évoqué là. Parce que ça peut aller très vite sur beaucoup de sujets.
De toute façon, tu vas ressortir des projets.
Et voilà, des trucs. Et je vous souhaite de continuer à tous délire là, des interviews, des podcasts, à développer vos trucs, à continuer dans tous vos projets là auxquels je vois ce qui se passe, quoi.
Tu connais, nous sommes des bousillés.
Voilà, pareil, c'est ça, exactement. C'est pour
c'est
ça
ce
que
qui nous lie.
Là, on va couper les micros et derrière, je sais que on a encore des trucs à raconter. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir les refs.
Du coup, allez écouter toute sa discographie parce que sa discographie, elle est quand même conséquente. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mmh. Et ça commence en 2011 avec Petit Meurtre entre amis sur les plateformes et ça se termine là avec Expressionnisme Allemand qui est sorti il y a presque 2 ans.
2022.
Mais entre temps, les mecs sortent quand même des singles. Il y a un son de fou qu'on a oublié de parler. C'est le son avec mon zinc, Ryu MC. Ça s'appelle
La patience dévore le diable.
Exactement. Quel morceau.
Ouah. Produit par Goumar.
Exactement. 240 aussi, il a sorti un son avec l'homme qu'on appelle Tehar, qui est incroyable. Mm-hmm. Produit par Aztec.
Exactement.
Non, il y a trop de trucs. En vrai, allez écouter.
Ouais,
il faut écouter parce que. Non, le gars, il travaille,
et
ça fait
là,
longtemps,
là,
il est sur un gros run.
Il y a cette année-là, il y a la course contre le soleil que je vais sortir, qui est mon prochain EP. Donc, il sera un EP. 7 titres en principe. Et donc là, je voulais sortir ça en début d'année, mais en fait, on a du tout revoir pas mal de choses. Si tout va bien, ça sort pour le solstice d'été, quoi. Si tout va bien.
Et merci.
Merci.
Aïe, aïe, aïe. Carré,
les frérots.
Merci à toi, ma gueule, tu connais.
C'était lourd. Merci, les frérots.